On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir ou rebonsoir à toutes et tous. On refait le match, deuxième de la saison pour le meilleur de l'expertise, du décryptage, mais pas seulement le 4-4-2. Vous le savez, l'émission s'adresse à tous les publics et tous les supporters avec respect, bienveillance, bonne humeur, rire et sourire durant 90 minutes, comme un match de football. Avant de retrouver Eric Silvestro, Giovanni Castaldi, Raymond Abou, 20h, RTL Foot et 21h, Strasbourg-Nice. Au sommaire, ce soir, jusqu'à 19h, Messi au Paris Saint-Germain. Réalité ou fantasme ? 19h-19h30, du nouveau dans la liste de Didier Deschamps. Alors les anti-Dédé, on se décoince un peu ? C'est ma question. 19h30, une annonce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, le report de Lens Paris Saint-Germain pour récupération supplémentaire après la finale de Ligue des Champions. Est-ce que c'est scandaleux ? Scandaleux ou pas ? Enfin, 19h45, nouveauté dans Refait le match, la séance de tir au but. Chaque débatteur devra prendre cette fois-ci ses responsabilités et ne pas fuir face à l'enjeu. Toute une série de questions qu'ils ne connaissent pas à l'avance sur l'actu, je vous le promets. Et face au but, on verra qui se cache ou qui a vraiment le mental nécessaire. En studio, Philippe Sanfour, chef de la rubrique football de RTL. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous.
David Aiello, sociétaire dont refait le match. Bonsoir David.
Bonsoir à tous.
Stéphane Powels, le plus français des Belges. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Et un retour, un historique. L'occasion d'ailleurs pour nous d'avoir une petite pensée pour le meilleur d'entre nous, Eugène Saccomanno. Le procureur Gilles Verdez. Bonsoir Gilles.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Et bienvenue Gilles Verdez.
Merci.
En régie pour relayer tous vos messages et ainsi participer à l'émission 100% interactive, Baptiste Durieux. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Réalisation d'On fait le match, Lucas Dindeleu. Top départ après la pub, vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match, les débats, le direct également après Lyon-Dijon, 4 buts à 1 hier soir, deuxième journée suite, Rennes-Montpellier, bientôt la fin. Philippe Audouin, bonsoir à Rennes.
Bonsoir Christian, et Rennes qui mène 2-0 puisque Kamavinga vient de doubler la mise pour les Bretons. À l'instant, super but 2 avec Mawassa, il s'enfonce dans la défense Montpellier-Rennes, passement de jambes feinte et tir croisé parfait à ras de terre du pied gauche du nouvel international français, 17 ans et 8 mois seulement, rappelons-le. Rennes qui avait ouvert le score en première mi-temps sur un but contre son camp de l'Otalek, le Montpellier-Rennes, les deux équipes qui jouent à 10 contre 10. Mollet a été expulsé en fin de première mi-temps et Terrier, juste avant le deuxième but de Kamavinga, avait été exclu côté Rennes. Il reste 11 minutes, 2-0 pour Rennes.
Et à partir de 19h, merci beaucoup Philippe, vous intervenez dès que vous le souhaitez, à partir de 19h, la deuxième journée de Ligue 2, quart d'heure par quart d'heure. Cet après-midi, Caen a battu Ajaccio, lassé Ajaccio par 1-0, Nancy-Guingamp, 2-2. On fait le match, les débats. Philippe Sanfourche, Sébastien Tarago, David Aiello, Gilles Verdez, Stéphane Powels, Lionel Messi au Paris Saint-Germain, réalité ou fantasme ? Alors bien sûr, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui peut potentiellement s'intéresser évidemment à Lionel Messi. Il y a notamment l'Inter Milan, il y a Manchester City, il y a aussi peut-être la Juventus Turin, pourquoi pas les États-Unis. À 33 ans, Lionel Messi au Paris Saint-Germain, fantasme ou réalité ?
Et de toute façon,
Stéphane Powels.
L'autre question aussi, c'est de savoir est-ce que c'est bien ou pas. Parce que Lionel Messi, oui, c'est encore autre chose. Fantasme, bah, vous savez qu'avec Paris, tout est possible, hein, ils ont de l'argent. Donc on l'a bien vu, comment on a su quand même garder Mbappé alors qu'il était dans les petits papiers de Madrid. Et donc il y a un moment, s'ils ont envie de se faire plaisir, mais moi je pense que c'est pas une bonne idée. Quand vous avez vu la relation qu'a eu Griezmann avec Messi, vous allez venir mettre encore Messi avec Neymar, avec toute la clique.
Bah, c'est son copain Neymar, Messi. Neymar a cherché à faire venir Messi à Barcelone.
Mais, bien sûr, mais Messi est à moitié cramé, il faut quand même oser le dire quand même.
Oui, cramé.
Sébastien Tarago.
Une petite moitié quand même, parce qu'on pourrait revenir sur sa saison. On peut discuter de son évolution sur le terrain, ça je suis d'accord avec toi, mais en revanche, je pense qu'au niveau statistique notamment, ça reste un peu oui. supérieur à quand même 99% des joueurs. Mais juste pour répondre à la question, après, brièvement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que Leonardo a passé un coup de téléphone à l'entourage de Lionel Messi, c'est son travail de le faire.
À son papa.
Et absolument. Et ce que l'on sait aussi, c'est que visiblement, ce n'est pas la priorité de Lionel Messi à l'heure qu'il est de venir au Paris Saint-Germain. Après, dans ce transfert qui s'annonce très complexe, il va falloir savoir quel club peut payer. Est-ce que Manchester City aujourd'hui va pouvoir parvenir à faire venir Lionel Messi ? Je ne le sais pas.
On rappelle que ça peut coûter 700 millions d'euros si la clause ne tombe pas, ou 0 euros, mais dans un an.
Ça n'existe ouais, mais non, ça n'existera ni l'un ni l'autre, a priori.
Ah bon ?
Non, parce que la clause de 700 millions, personne ne la lèvera. La clause à 0 euros, ça va quand même être difficile sur le plan juridique, puisqu'on le rappelle brièvement, mais c'était une clause qui devait être levée par Lionel Messi avant le 1er juin ou le 10 juin, je ne sais plus.
15 juin, je crois.
En tout cas, c'était début juin. Et,
c'est-à-dire que début juin, Messi aurait dû dire, pour notre public, il aurait dû dire « je veux partir », et là,
il était libre.
Libre.
Mais ça, c'était dans un monde normal où la saison ne se serait pas arrêtée avant et aurait repris
et
plus
ça,
tard.
Et ça, c'est le jeu des avocats de Messi.
C'est le point juridique sur lequel ça...
Lionel Messi considère que les choses ont évolué parce que la saison s'est terminée plus tard. Mais je pense que s'il part, ça se jouera entre les deux. Comme toujours, il y aura une négociation. Mais encore une fois, aujourd'hui, Manchester City, qui est la priorité du joueur, peut-il payer Lionel Messi ?
Dans
moi,
le cadre du
fair play
financier, il faut rappeler quand même que Manchester City sort d'un long combat judiciaire qui l'a mené jusqu'au tribunal arbitral du sport suite à sa suspension par le fair play financier de l'UEFA. Donc moi, effectivement, moi j'appuie sur ce point parce que finalement, évidemment, c'est plaisant de se dire est-ce qu'il peut venir en Ligue 1, etc. Mais on a peu parlé de ce cas-là, c'est est-ce que ce transfert-là est possible ? On rappelle qu'il est à 70 millions non chargés, c'est-à-dire que son transfert, rien qu'en salaire, c'est quelque chose de monstrueux. Donc déjà, pour Paris, qui sort d'une saison Covid avec plus de 100 millions d'euros de déficit et la même chose pour Manchester City, moi je suis vraiment pas convaincu que ce transfert-là soit matériellement, financièrement
Gilles
possible.
Verdez.
Il
n'y
a plus de fair play financier. C'est ça la donnée qui a changé. C'est que ça n'existe plus.
Il existe encore.
Manchester City a pulvérisé le fair play financier. Et c'est pas un hasard si Manchester City était vraiment en pointe pour gagner ce dossier. Parce que Manchester City ourdissait déjà avec Messi. La venue de Messi. Ça ne s'est pas fait dans les trois derniers jours. Ça fait plusieurs semaines que Messi avait dit, plusieurs mois même, avait laissé Guardiola penser qu'il pouvait venir. Il a activé quand il a su que c'était faisable et que City avait cassé en deux le fair play financier. Et donc Messi s'est dit, je suis libre. Mais pour répondre
tu
à votre
que
question...
Tu penses que c'est prémédité,
Gilles ? Bien sûr que c'est prémédité. Mais pour répondre directement à votre question, bien sûr que le PSG est dans la course. Manchester City est favori, mais le PSG est un très bon outsider. Et Leonardo, il a un argument massu. Il a dit à Messi, tu veux jouer avec Neymar ? Tu viens, tu joues avec Neymar. La MSN, Suarez, à Barcelone, ça te plaisait ? Il lui a dit, il a dit au père de Messi, je peux prendre Suarez également, parce que ce n'est pas le PSG qui va payer, c'est le Qatar qui va payer et qui veut battre les Émirats Arabes Unis de Manchester City.
Alors, on rappelle que City a peut-être effectivement une longueur d'avance sur le plan sportif et des relations humaines, car Pep Guardiola a entraîné Barcelone, il a entraîné Lionel Messi, et que le directeur exécutif de City est un ancien vice-président de Barcelone, Philippe Sanfourche.
Bon, moi, je suis content de voir que le procureur est de retour parmi nous et qu'il n'a pas perdu les bonnes habitudes et les bonnes fitesses. Les bonnes ficelles et les analyses concrètes de la chose. C'est exactement ça l'équation. Le fair play financier, effectivement, il a explosé en vol avec, j'ai envie de dire, la double
peine. Mais politiquement, c'est pas
si simple
que ça.
C'est-à-dire que tout le monde nous avait expliqué que Neymar plus Mbappé, c'était impossible, que ça passerait pas. Aujourd'hui, non seulement le fair play financier n'a pas pu s'opposer à cela, mais tous les clubs d'Europe se rendent compte que le schéma économique que le PSG a emprunté, le PSG n'est peut-être pas encore un modèle sportif, mais sur le plan économique et marketing, le PSG
a mis
une claque à tout le monde avec cette affaire, parce que la réussite, elle est là aujourd'hui. Et Manchester City a fini d'enterrer le fair play financier. L'enjeu dans la question, est-ce que c'est fantasme ou c'est...
Je reviendrai sur
c'est
cela.
C'est justement parce que c'est un fantasme.
Philippe,
que
je reviendrai
réalité.
Sur Manchester City a définitivement enterré, c'est ça ? C'est ce que tu dis ?
Oui.
Le fair play
oui.
financier.
Mais c'est justement parce que c'est un fantasme collectif de voir... Messi, le plus grand joueur du monde à l'heure actuelle, peut-être l'un ou le plus grand joueur de tous les temps, l'objet de tous les fantasmes, qui décide de quitter Barcelone. Donc,
mais
qui est
tout
en
monde
capacité
a ce
de le faire venir ?
Non, mais moi,
eh bien, les puissants, les actionnaires États. Donc, c'est effectivement Manchester City ou le Paris Saint-Germain.
Alors,
et
monsieur,
personne d'autre.
Il y a même la théorie du complot. C'est-à-dire que l'UEFA pourrait être complice de la volonté de Manchester City de voir effectivement son déficit totalement effacé et ne pas être menacé. Pourquoi ? Parce que qu'il y a deux solutions. Premier, c'est qui voulait quitter effectivement depuis plusieurs semaines Barcelone. Il y a deux solutions. C'est de continuer à jouer ou en Europe ou de partir aux États-Unis.
Non, Christian,
et je pense que l'UEFA a plutôt intérêt à conserver le meilleur joueur du monde encore, au moins sur une ou deux saisons sur le continent européen.
Je veux bien entendre toutes ces théories, il n'y a pas de souci. Elles sont en partie justes.
Sébastien Tarrazin.
Vous pouvez enlever en partie. Hein.
Mais moi, je me permettrais d'avoir un autre avis et de dire que c'est en partie juste parce qu'il me semble quand même que l'UEFA a envoyé, enfin à travers ses commissions, a envoyé Manchester City, voulait envoyer Manchester City par le fond et ne pas lui faire disputer la Ligue des Champions.
Voulait.
Ben oui, mais quand même.
Donc non, c'est vrai que c'est le TAS qui a tranché.
Vous pouvez quand même pas m'expliquer que l'UEFA permet à Manchester City de tout faire alors qu'il l'avait exclu de la Ligue des Champions et que c'est le tribunal arbitral du sport qui n'a rien à voir avec l'UEFA
qui est intervenu
et qui a réintégré Manchester City. Je veux bien tout entendre, mais c'est pareil pour le Paris Saint-Germain. Si le fair play financier n'existait pas du tout, le Paris Saint-Germain n'aurait pas cette équipe, n'aurait pas ses latéraux, n'aurait pas ce milieu de terrain. À un moment, il a été contraint quand même à un minima.
Là, tu surestimes la capacité des recruteurs à prendre des joueurs très chers qui ne sont pas les bons.
Gilles Verdez.
Sébastien, c'est le foot du passé. C'est le foot d'avant Covid. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Vous avez deux États, le Qatar, le PSG, les Émirats Arabes Unis, agglomération d'États, notamment Abu Dhabi, qui veulent rehausser le prestige du football européen, garder Messi, celui qui va prendre Messi aujourd'hui, mais ça va être la plaque tournante du football
mais
mondial.
Messi va rester en Europe, Gilles.
Mais il va, mais bien sûr. Donc vous avez le Qatar et les Émirats Arabes Unis vont injecter des centaines de millions pour avoir Messi. Et vous pensez que l'UEFA, avec ses avocats minables qui ont été pulvérisés par le TAS, mais quand vous lisez les 96 pages du rapport du TAS, les avocats de l'UEFA, ils sont laminés, pulvérisés. L'UEFA ne s'y risquera plus. Celui qui veut Messi, il l'achètera.
Non, attendez, Stéphane Poels. Bah,
pour essayer quand même de remettre un tout petit peu l'église au milieu du village, là on parle beaucoup d'argent, ça fait quand même un quart d'heure.
Oui,
oui, on parle que de ça. Là,
ça va être central dans ce dossier.
Non, mais c'est quand même très triste. C'est quand même très triste. C'est que moi j'avais cette image. Le Messi a fait rêver des milliers et des millions de gamins de ce joueur magnifique, fidèle à club. Mais on est bien là, hein. Et ça, tout se casse là. Moi j'ai l'impression qu'il y a un rêve qui se casse. J'ai ce regard extérieur. J'ai ce regard et permettez-moi qu'il y a beaucoup de monsieur, madame, tout le monde qui pense comme moi. Ça veut dire que Messi qui montrait cette image de fidélité à son club, là on parle de gros sous. Et comme Gilles Verdez vient de le dire, on parle des Émirats, du Qatar.
Stéphane, donc ce c'est football, de loin le joueur le plus payé de la planète.
Mais nous sommes d'accord. Mais ce football est pourri et gangréné. On est en train de nous dire. Mais si, c'est comme ça. On est en train de dire que Paris.
D'abord, on sait la valeur marchande de Messi. Si, c'est nous qui parlons effectivement des millions d'euros et qui pesons ou sous-pesons les enjeux de transfert de Messi. Mais alors, je pose la question parce que, et ça n'a pas servi à Lionel Messi à une époque où il était toujours en bras de fer avec sa direction pour se voir rehausser un contrat. Et finalement, s'il restait à Barcelone.
Pas exclu. Là, manifestement, il a été beaucoup plus loin et il semblerait que sa volonté première soit quand même de partir, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, il y a des principes de réalité. Si ça ne peut pas se conclure, il essaiera évidemment de repartir du bon pied et encore une fois de booster un peu son salaire à Barcelone. Ce sera quand même compliqué parce qu'on rappelle quand même qu'il gagne quasiment deux fois ce que gagne Neymar au Paris Saint-Germain.
Il a coupé la tête à Abidal, c'est Messi. Il a coupé la tête à moitié
pas une mauvaise idée,
au président.
Abidal,
au président.
La tête tout seul.
Ouais, mais il a quand même coupé la tête à beaucoup de gens.
Il
notamment,
aurait peut-être voulu couper la tête de Griezmann.
Nous sommes complètement d'accord. Donc ça quand même commence à faire beaucoup. Et si le mec il va rester, et en plus maintenant on va expliquer aux supporters qui avaient quand même envie d'aller rejoindre son copain Pep à City.
C'est quand même loin d'être impossible. Christian l'a rappelé, depuis des années on a bien compris que les menaces de départ étaient à chaque fois accompagnées de revalorisation. Là, il a peut-être franchi un cap supplémentaire dans la mesure où il n'y avait pas que seulement la revalorisation salariale qui l'intéressait, mais la restructuration complète du club. Et en gros, que les clés du camion lui soient remises, puisque s'il demande et obtient le départ du président de son club, c'est quand même pas rien. Donc peut-être qu'effectivement, il est allé plus loin. Et moi, je suis loin d'être convaincu qu'il va quitter le club, à la fois pour des raisons financières, mais également peut-être parce qu'il n'en a pas vraiment envie.
Gilles Verdez.
Alors moi, j'évoquais le fait que Messi est ourdi, comploté autour de son départ. Mais vous, alors ce serait une double détente. Il aurait fait semblant de vouloir partir pour avoir la tête du président.
Je pense que c'est moins
mais
tordu
arrêtez.
Que...
Si Messi
mais non,
veut
c'est
la
moins
tête,
tordu. Parce si que Messi... ça, il l'a déjà fait.
Si Messi voulait la tête du président de Barcelone, il faisait une déclaration publique en disant « Je reste s'il part ». Et le président était obligé de partir. D'ailleurs, le président l'a reconnu lui-même. Donc, il n'aurait pas eu besoin de tout ça. Il veut vraiment partir parce qu'il sait qu'avec Barcelone, il n'y aura plus de Ballon d'Or, il n'y aura plus de Ligue des Champions.
Sébastien Tarrazin. Tu as quand même remarqué que Lionel Messi ne prenait quand même jamais de risque
risque publiquement. Donc, faire cette interview et demander la tête du président, tu sais très bien qu'il ne l'aurait jamais
en
fait.
En termes d'image.
Quand même.
Il laisse faire ses avocats.
Tu le sais.
Messieurs,
il dit jamais rien.
On va revenir sur le terrain parce qu'il va falloir aussi qu'on parle d'un entraîneur qui est nommé également par l'ancienne direction et qui ne va pas du tout s'entendre avec Lionel Messi si d'aventure Lionel Messi resterait à Barcelone. Je veux parler de Ronald Koeman. À propos de terrain, on file à Rennes. Rennes-Montpellier, le temps additionnel. Philippe Audouin sur place.
Et oui. 4 minutes de temps additionnel, 2-0 pour Rennes. Les deux équipes qui évoluent à 10. Kamavinga qui est sorti il y a quelques instants, ovationné par les 5000 spectateurs du Roazhon Park qui étaient debout pour saluer l'auteur du deuxième but sur un 1-2, mais surtout un petit exploit personnel, il faut dire, dans la surface de réparation de Kamavinga qui avait l'habitude de peu marquer, de peu être décisif. Et bien voilà, dès la deuxième journée de championnat, il ouvre son compteur but 2-0 pour Rennes.
Et il me semble qu'on reviendra sur le cas Kamavinga, mais pas seulement au moment de parler de Didier Deschamps dans la deuxième partie d'On refait le match. On refait le match avec Philippe Sanfourche, Sébastien Tarago, David Aiello, Gilles Verdez, Stéphane Poels et de Buzyn, réduction d'écart.
Avec Laborde qui reprend de la tête, Lucas Nécassé qui joue masqué, qui reprend un centre au premier poteau de la tête et le ballon qui termine sa course au deuxième poteau au fond des filets de Salin. 2-1 pour Rennes, mais plus que 3 minutes dans le temps additionnel.
Il est beau ce but.
Oui, mais ils peuvent avoir des regrets. Hein,
parce jolie tête en lucarne.
Il y a une carte rouge qui est donnée un peu sévère. L'Avar est intervenu. Mm-hmm. Et donc, tu perds 2-1 en ayant joué à 10. Je pense que Montpellier aura un petit peu mal au ventre ce soir.
Vous l'avez vu, cette carte rouge contestable? Parce que je me suis consacré à l'arrivée du Tour de France.
C'est un petit peu sévère.
Ouais. Ouais, ouais. Le pied haut, ça mérite évidemment un carton jaune et une faute. Mais de là, exclure le joueur.
Surtout qu'au l'arbitre, au début, il donne jaune. Quoi. En première attention. Ouais. Et puis derrière, ils utilisent la vidéo. Il prend la rouge. Je trouve que c'est sévère. Moi.
Les réseaux sociaux, je vous rappelle que vous pouvez partager cette émission, débattre, apporter de la contradiction également sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte @RTLFoot en compagnie de Baptiste Durieux qui se trouve en régie. Baptiste.
Absolument Christian, beaucoup de messages évidemment sur Messi, notamment de Samuel qui est assez pragmatique. Foutre en l'air un effectif en vendant la moitié des joueurs et vivre étouffé par les dettes. Tout cela, ce n'est pas une vie pour un club, c'est tout simplement impossible, le transfert de Messi. Puis il y en a certains qui fantasment sur un transfert en Ligue 1, par exemple, comme Arnaud qui écrit « Hâte de voir Messi quand il se déplacera à la Mosson face au 5-5-0 de Der Zakarian avec marquage individuel de Joris Chotard et de Pedro Mendes. Il va pas être déçu du voyage. » Et puis d'autres aimeraient le voir à Manchester City, évidemment. Comme Johan, grande tristesse, ainsi départ du Barça, mais énorme excitation de le voir dans un nouveau club. Et si le maillot est bleu-ciel avec sur le banc le digne héritier du Barça de Cruyff, je signe immédiatement.
Merci Baptiste, vous continuez de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Jusqu'à 19h, on parle de Lionel Messi, fantasme ou réalité au Paris Saint-Germain, Inter Milan, Manchester City, la Juve éventuellement, les USA, peut-être pas cette saison, serait sur les rangs. Un obstacle également dans le cas où Messi nous proposerait un coup de poker, un coup de bluff. Le départ de Bartomeu, mais toujours en place le nouvel entraîneur Ronald Koeman. Koeman qui a viré l'un des amis coéquipiers de Messi, il s'agit de Luis Suarez, et Ronald Koeman qui a mis tout le monde au carré en disant attention maintenant les vaches sacrées, c'est terminé, fini les privilèges.
C'est un pansement, hein, quand, non Koeman c'est un pansement, c'est passager pour faire du nettoyage.
C'est surtout un scandale. Virer Suarez, Luis Suarez au téléphone dira Messi maintenant fini tes privilèges, mais c'est l'arrogance toute néerlandaise de Ronald Koeman, la même qu'il avait sur le terrain quand il agressait les joueurs en permanence. Bon, il a marqué le but. C'est une vache sacrée à Barcelone parce qu'il a marqué le but victorieux.
Pourquoi c'est
de la Ligue
l'arrogant,
des champions,
parce qu'il dit à Suarez, c'est fini.
Mais on vire pas les Suarez au téléphone.
Ah, mais ça, nous sommes d'accord. Mais
on dit pas à Messi, on dit pas à Messi, avec moi, tu t'entraîneras.
Mais il est là pour faire du nettoyage. Gilles, on a quand même bien compris que tout le monde voulait Xavi. Tout le monde voulait Xavi comme coach. On a mis Koeman pour faire le sale boulot. Koeman, il est là pour faire du nettoyage. Et donc, comme tout entraîneur, il va faire des choix.
Il démarre mal quand même.
Ah, ça démarre mal.
Tu sais très bien qu'au final, ce sont les joueurs qui font la différence. Ce sont les joueurs qui, sur le terrain, te font gagner ou te font perdre. Quand tu commences comme ça, il faut t'assurer que tu vas pas les garder, les gars. Parce que si tu en gardes ne serait-ce qu'un ou deux,
quoi comme
ils
saison
te pourrissent le vestiaire et c'est terminé. Donc il démarre pas bien, moi, je trouve.
Sébastien Tarago, je vous trouve un peu en retrait sur ce débat, Lionel Messi.
Non, j'écoute. Je suis passionné par ces échanges. Je trouve ça maladroit. Je trouve ça maladroit. Après, il faut faire attention. Il était en vacances, Suarez. Si Ronald Koeman avait attendu de le voir de visu, on lui aurait reproché d'avoir trop attendu. Tu sais très bien, Gilles, quand même, que ces choses-là sont compliquées. Donc le coup de téléphone, moi, ça ne me choque pas. Ça lui permet aussi de rebondir. En revanche, ce que je trouve incroyable, c'est d'être aussi cash, de laisser fuiter autant de choses. Parce qu'en effet, Luis Suarez, il lui reste un an de contrat. Donc si Luis Suarez, il ne trouve pas de club pour X ou Y raison, notamment son salaire, et qu'il reste à Barcelone parce qu'il le décide, alors il faudra faire avec dans le vestiaire. Et ça, je suis surpris effectivement de la méthode un peu brutale. En revanche, Barcelone va souffrir, mais il est indispensable de changer quelque chose, de casser cette dynamique, parce que les vaches sacrées, oui, en effet, à Barcelone, elles dorment depuis un petit moment.
David Ayello.
Moi, je ne suis pas si surpris que ça. Je pense que sa méthode, quelque part, elle vous plaît pas. Moi, je pense qu'elle est plutôt intéressante, dans le sens où on sait très bien que si un entraîneur arrive dans un groupe et a une gestion très, très, très relaxe, on va dire, au début, ça va être très, très compliqué ensuite de reprendre la main. Je pense que dans sa gestion, dans son analyse de la situation, il s'est dit, on a un vrai problème de gestion de l'effectif. Et on le sait qu'à Madrid et à Barcelone, c'est extrêmement compliqué avec les cadres. Je vais les appeler les cadres pour être un petit peu plus sympathique avec eux. Donc, j'arrive, je remets un petit peu de l'ordre dans la maison. Et ensuite, en fonction de l'évolution de la saison, je m'assouplirai. Moi, ça me paraît plus évident à gérer que dans l'autre sens.
Non, mais Gilles, il a raison, c'est l'arrogance hollandaise. Coman, quand on connaît un peu le personnage, c'est comme mais ça. Quoi.
Je connais plein de Hollandais qui ne sont pas du tout
arrogants.
Je connais des Français qui le sont.
Mais Coman, il l'est bien.
Fin du match à Rennes. Rennes, Philippe Audouin, victoire.
Et des Belges.
Oui, victoire pour le Stade Rennais. 2-1 avec l'ouverture du score. Donc, en première mi-temps, le Talek contre son camp, Montpellier réduit à 10 après l'expulsion de Mollet en fin de première mi-temps. Rennes qui, à son tour, est réduit à 10 et juste avant que Camavinga ne marque le deuxième but. C'est Terrier qui a été expulsé pour Rennes. 2-0 pour Rennes et puis 2-1 finalement dans le temps additionnel avec la réduction de l'écart signée Laborde.
Merci beaucoup Philippe Audouin. Et première réaction Rennes-Montpellier-Rennes dans RTL Foot, bien évidemment à partir de 20h en compagnie d'Éric Silvestro, Giovanni Castaldi, Raymond Abou et bien sûr vous tous, RTL Foot avant l'intégralité de Strasbourg-Nice. Je voudrais quand même qu'on pense à notre ami Antoine Griezmann, qui va devenir le nouvel homme fort. Si Messi part, si Bartomeu part, si les vaches sacrées quittent Barcelone, la nouvelle vache sacrée 2020, ce sera Antoine Griezmann, c'est Philippe Sanfourche. Philippe
Sanfourche. Ouais, alors c'est pas une évidence parce que l'histoire avec Barcelone, elle a déjà très mal débuté pour Antoine Griezmann. Rien que son annonce précédente de ne pas y aller pour rester à l'Atlético pour ensuite revenir, déjà il est parti sur des mauvaises bases. Depuis. Ça va de mal en pis, que ce soit au sein du vestiaire, tous les supporters du Barça ne l'ont pas encore accepté.
Ça va vite, Sophie.
Est-ce qu'il a la capacité de prendre ça sur ses épaules? Est-ce que c'est son histoire? Est-ce que la façon de jouer du Barça lui correspond parfaitement? Moi, pour l'instant, je reste très dubitatif.
Rendez-vous
sur
compte,
la capacité
il va déjà
de
récupérer.
À s'imposer dans ce club-là.
Son numéro fétiche, le 7, on lui promet le poste axial, non plus d'être baladé à droite, à gauche ou sur le banc des remplaçants. Donc un véritable bonheur.
Ce qui est sûr, c'est que la seule issue possible pour Antoine Griezmann, c'est que Lionel Messi parte. Parce que quelque part, Antoine Griezmann, c'est une photocopie de Lionel Messi en moins fort. C'est techniquement, dans les déplacements, un petit peu les mêmes joueurs. Des joueurs qui rentrent comme ça dans l'axe, il ne peut pas jouer à gauche, Griezmann. Il peut être un peu plus à droite et rentrer comme ça, oui. Mais tant que Lionel Messi sera là, franchement, je ne vois pas comment ça peut fonctionner.
Gilles Verbez.
C'est un terrible cadeau empoisonné que Koeman a fait à Griezmann en lui disant « Tu auras ton numéro fétiche et je te mets là où tu veux. » Pour tout le monde barcelonais, ça va être Griezmann a entériné le départ de Messi, a entériné le fait que Suarez soit viré. Puis c'est pas fini. Bientôt ce sera Piqué, Busquets, il va tous les virer.
C'est lui donner un pouvoir qu'il a pas, à mon avis, Griezmann à Barcelone.
Il va tous les virer, Koeman. Et donc Griezmann sera roi au milieu du désert. Et tous les supporters barcelonais diront « Ah, c'est toi qui as été le complice de ce qu'a fait Coman,
non, mais
l'exécuteur
Gilles,
des baseux du néerlandais. »
Gilles,
Gilles,
c'est un bon compteur. Hein. Et il fait fi de l'intelligence éventuelle des supporters catalans. Moi, je pense que les gens réfléchissent par eux-mêmes. Si Antoine Griezmann veut aller à la table des plus grands champions, eh bien, à un moment, cette pression-là, il la vivra. Parce que sinon, il va jouer au FC Metz ou à Mâcon, je ne sais pas en quelle division ils sont. Et puis, il sera effectivement tranquille au centre du projet. Là, à un moment, si jamais sur le plan technique, parce que quand même, à un moment, il faut revenir sur le terrain, sur le jeu. Parce que le plus gros problème d'Antoine Griezmann, ce n'était pas le vestiaire, c'était le jeu. cette saison. Et ben, si jamais dans le jeu il y a quelque chose qui le positionne de manière positive, alors quand même à lui après de faire état d'un mental suffisant. Sinon, il retourne à l'Atlético.
Non, mais le supporter du Barça, il n'oublie pas. Je rejoins Philippe tout à l'heure. Le départ est déjà mauvais. Quand un départ est déjà mauvais, c'est compliqué pour un joueur d'y réussir. Moi, je pense que ça va être très très compliqué, quoi qu'il arrive. Et je suis d'accord avec Gilles. On va lui faire porter le chapeau de pas mal de choses.
Autre nouveauté dont refait le match, parce que vos débats, c'est bien joli, mais il faut prendre position à un moment donné. Donc à la fin de chaque débat, c'est oui ou c'est non, et c'est pas peut-être. Hein. Lionel Messi au Paris Saint-Germain, réalité ou fantasme? Philippe Sanfourche.
Réalité.
Réalité ou fantasme? Sébastien Tarrago.
Nous sommes le combien? Samedi 29 août 2020, fantasme. Demain, je ne sais pas.
Stéphane Pauwels, réalité ou fantasme?
Avec le Qatar Football Club, tout est possible.
Gilles Verdez.
Réalité.
David Ayello.
Fantasme absolu.
Fantasme absolu. 19h59, minutes derrière les informations de 19h, la suite dont fait le match. Nous sommes ensemble encore pour une heure. Ensuite, ce sera RTL Foot jusqu'à 23h en compagnie de toute l'équipe d'Eric Silvestro. Je vous rappelle que Rennes a battu Montpellier. Ça vient de se terminer sur le score de 2-1. Le deuxième gros débat jusqu'à 19h30. Du nouveau dans la liste de Deschamps. Alors les anti-DD, on se décoince un peu? À tout de suite.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On refait le match chaque samedi soir, 18h30, 20h, 90 minutes, le temps d'un match de football. Et à partir de 20h jusqu'à 23h, RTL Foot, Eric Silvestro, Giovanni Castaldi, Raymond Abou et Quentin Vasselin, bien évidemment, pour les réseaux sociaux. Intégralité ce soir à partir de 21h du match qui va opposer, match de championnat qui va opposer Strasbourg à Nice. Alors que, après le succès d'hier, Lyon-Dijon 4-1 pour les Lyonnais, cet après-midi, ce soir même, il y a environ un quart d'heure, Rennes a battu Montpellier 2-1. Depuis 18h30, nous étions sur le cas Lionel Messi. Messieurs, je vous propose de changer de sujet. L'actualité de la semaine, c'était aussi Didier Deschamps et sa liste en vue des deux matchs internationaux. L'équipe de France va se déplacer en Suède la semaine prochaine, samedi prochain, le match. Puis, trois jours après, l'équipe de France recevra la Croatie. La liste de Didier Deschamps, jeudi, au siège de la Fédération française de football. Et là, quand même, surprise. Surprise avec l'apparition. Ce n'est pas une sélection, on le rappelle, hein, pour les puristes. Ce n'est surtout pas une sélection, c'est une convocation d'Adrien Rabiot. Alors, on rappelle qu'Adrien Rabiot a été excommunié des Bleus après avoir refusé d'être dans la liste des réservistes juste avant la Coupe du Monde 2018. Il y a eu une lettre, un mail. Rabiot a évoqué des considérations sportives. Didier Deschamps n'a pas surenchéri véritablement, mais a pris acte de la décision du footballeur. Adrien Rabiot réintègre le groupe Équipe de France. Didier Deschamps va l'accueillir lundi à Clairefontaine. Il y a également des nouveaux. Kavaminga, Upamecano, Oussem Aouar, Aouar qui ne viendra pas car positif au coronavirus, remplacé d'ailleurs par Nabil Fekir. Bref, il y a un peu de nouveau au sein de ce groupe, d'où ma question. Du nouveau dans la liste de Deschamps, alors les anti-DD, est-ce qu'on se décoince un peu?
Il y a toujours eu du nouveau.
Vous voyez le côté un peu provocateur de la question, le pragmatisme, le côté conservateur de Deschamps.
Je suis surpris par votre question, vous qui connaissez si bien Didier Deschamps et ses listes. Rappelez-vous l'évolution de la liste des 23, justement, entre l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018. C'est considérable, je crois qu'il ne restait que 12 ou 13 joueurs.
Oui, 13.
Donc, il a toujours changé. Après,
c'est parce qu'on se focalise
sur ça. Parce que ce changement a une haute valeur symbolique.
Oui, mais si on va sur Adrien Rabiot, c'est une autre question.
On en parle.
Moi, je reconnais que je suis un peu surpris. Parce que je sais qu'on va défendre le fait qu'il n'a pas refusé une sélection, il a refusé d'être réservé. Ok, bon, je connais la théorie. Mais quand même, ce n'est pas rien d'expliquer à un sélectionneur qu'on refuse d'être réserviste pour une grande compétition internationale parce qu'on considère que le choix sportif est injuste. C'est-à-dire qu'on considère que le sélectionneur fait mal son travail. Moi, je trouve ça incroyable.
C'est presque une première d'ailleurs. Hein.
Je trouve ça incroyable.
Moi, je me souviens, pour les plus jeunes, on peut le rappeler, Serge Chiesa, l'Olympique Lyonnais, avait refusé la sélection mais parce qu'il ne voulait plus se déplacer.
C'est autre chose.
Anelka qui a refusé d'y aller avec Roger Lemaire.
Mais il a été rappelé par un autre sélectionneur.
D'accord, il a refusé d'y aller pour Roger Lemaire. Dans le cas, il a refusé une sélection.
Mais là, effectivement, vous êtes surpris, Sébastien, de par finalement
Non, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Il y a eu deux années, c'est ça, au final ?
Non, mais qu'est-ce qui est bien ? C'est-à-dire que Deschamps rappelle.
Je trouve ça bien que Didier Deschamps lui redonne sa chance. Moi, je ne suis contre les condamnations à vie. Donc, il a été, entre guillemets, condamné pendant deux ans. De toute façon, pendant un moment, il n'avait pas le niveau sportif pour revenir, puisqu'il ne jouait plus au Paris Saint-Germain.
C'est surtout ça, ce que vous disiez,
d'où ma question.
Mais en fait, à partir du moment où la Coupe du Monde se joue.
Les anti-DD trouvent que Deschamps peut-être se décoincer un petit peu, car on le trouve toujours trop conservateur, même un peu rancunier dans ses choix. C'est pour ça que je pose la question.
Alors, rancunier, c'est quand même difficile de dire ça. Dans toute sa carrière en club ou en tant que sélectionneur, il a quand même souvent montré que...
Les anti-Deschamps.
Oui, les anti-Deschamps. Ouais.
Les pro-Benzema, aller au fond du dossier.
C'est encore un autre dossier.
Bah non, mais c'est ça. Quand vous
crachez. Mais c'est pas le même sujet.
Non, mais quand vous dites ça, vous dites que les sceptiques de Dédé, c'est parce que souvent Didier Deschamps ne veut pas revenir sur certaines positions, et vous le dites à moitié, mais c'est sur l'histoire de Benzema. Il y a la moitié des défenseurs de Benzema qui lui en veulent à Didier Deschamps, mais c'est un faux débat. Ici, on parle d'un autre. Moi, je ne comprends pas votre question non plus sur les sceptiques, sur les sceptiques
mais
de Dédé.
Je comprenais pas la question.
Sur les sceptiques de Dédé.
Écoutez la question telle qu'elle est formulée. Est-ce qu'enfin les anti-Deschamps vont fermer leur bouche? Oui, c'est fini, on les entend plus. Il les a tués avec le rappel de Rabiot.
Les anti-Deschamps, ils la fermeront, comme tu dis,
mais vous rigolez. Moi qui n'aurais jamais, avec ma petitesse d'esprit, jamais j'aurais rappelé Rabiot, qui pour moi était l'anti-France. Il le rappelle et c'est plébiscité par tout le monde. Maintenant, Rabiot redevient joueur d'équipe de France. Moi qui voulais que Benzema revienne, mais j'ai plus rien à dire.
Monsieur Verdes,
parce qu'on sait maintenant.
Monsieur Verdes, mais vous allez m'écouter.
Parce qu'on sait maintenant. Écoutez-moi d'abord. Parce qu'on sait maintenant que si Benzema ne revient pas, c'est parce que bien derrière des querelles sportives potentielles commises avec Rabiot, il y a autre chose.
Il faut le dire.
Il y a ce tag raciste sur la maison qui a fait peur à l'épouse de Didier Deschamps, qui est sacré pour lui et il ne le rappellera jamais. Mais aujourd'hui, les polémiques sont closes. Deschamps a tué les dernières polémiques.
Non, mais attendez, si vous voulez.
Stéphane Powell.
Juste un point. À un moment, l'affaire Benzema, de toute façon, on ne va jamais la régler. Donc cette histoire-là.
Ah si, il l'a réglée.
Attendez, ça ne va jamais être réglé. Je parle de Rabiot. Mais on peut terminer sur Rabiot. Sur Rabiot. Je pense qu'on peut à un moment aussi tourner la page, dans le sens où il a payé lui-même, il n'a pas été champion du monde. Donc je pense qu'il s'est déjà tiré une balle dans le pied tout seul, Rabiot. Il a été puni. Donc maintenant, à partir du moment où il joue bien à la Juve et qu'il veut le reprendre, c'est peut-être surprenant, moi je peux le comprendre, mais moi je comprends tout à fait qu'à un moment on retende la main à un joueur qui a du potentiel. Et je suis Dieu, c'est pas un grand fan du comportement de monsieur Rabiot. Mais attendez, c'est le sélectionneur, c'est lui qui le prend.
Philippe Sansfourche.
Il y a deux choses sur ce dossier. Il y a effectivement l'effet miroir Rabiot Benzema qui, à mon avis, est pas du tout. Justifié. On rappelle quand même, au-delà des considérations d'entente ou pas entre les deux hommes, qu'il y a quand même un dossier en justice. C'est-à-dire que pas plus tard qu'il y a deux mois, en juillet, le parquet de Versailles a décidé de renvoyer Karim Benzema devant le tribunal.
Donc on est quand même dans un parcours judiciaire qui
a forcément sa place dans le dossier. D'un côté, on parle de quelque chose de purement sportif, et de l'autre, de quelque chose qui dépasse ce cadre-là. Donc déjà, ça, d'une, on ne peut pas l'occulter. Maintenant, effectivement, si on se recentre sur le personnage de Didier Deschamps, moi, la grande surprise que j'ai par rapport à ce rappel d'Adrien Rabiot, c'est qu'il n'y a eu aucune explication entre les deux hommes. C'est qu'à aucun moment, Adrien Rabiot n'a formulé un mea culpa.
Mais ils se sont peut-être parlé, Philippe. Alors, qu'est-ce que t'en sais?
Je le sais parce que je l'ai vérifié. Je peux te dire que Adrien Rabiot est le premier surpris. Il a reçu effectivement sa préconvocation pour la première fois sur ce rassemblement, mais à aucun moment il n'imaginait être rappelé. Il a été le premier surpris.
Didier Deschamps connaît le football, quoi. C'est un bon joueur, il le reprend.
Oui, Gilles Verbez.
Je pense qu'il y a une valeur, pour rejoindre ce que dit Philippe, il y a une valeur extrêmement symbolique et une valeur stratégique dans le rappel de Rabiot. Le joueur Rabiot, il est bon, mais c'est pas lui qui va faire gagner l'équipe de France. Quand il a été en équipe de France, ça n'a rien changé. Mais le fait que Deschamps lui parle pas, justement, Deschamps là, ça fait 9 mois que les Bleus ont pas joué, l'équipe de France n'existait plus vraiment, l'Euro est reporté, et là il crée l'actualité en disant « Écoutez-moi, je n'ai besoin de justifier rien du tout. Je n'ai pas besoin de parler à un joueur qui a remis en question mes choix sportifs. Je suis tellement fort, je suis tellement Deschamps, je suis tellement au-dessus de vous, oui, au-dessus de tout ça, que je rappelle qui je veux quand je veux. Voilà.
Ah,
quelqu'un
que
a quelque chose à dire, non personne.
La douleur,
là, pour moi, là, c'est vraiment un choix totalement politique.
Sébastien Tarrago.
Non, j'attends de voir ce qui va se passer dans la discussion qu'ils auront. Didier Deschamps, c'est... bien amusé à rappeler quand même que le patron c'était lui et qu'il aurait une conversation et qu'il lui dirait ce qu'il avait à lui dire, qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour son autorité.
Il l'a dit à Clairefontaine. Hein.
Ouais, donc j'attends de voir effectivement si c'est un retour qui aura un prolongement ou pas, c'est tout.
Et pourquoi
mais
vous êtes tordu?
Non,
mais pourquoi vous êtes un peu tordu?
Ils vont
ça,
avoir
cette
discussion.
Chacun son tour. Chacun
non, attendez, Philippe. Pourquoi vous êtes tordu et que vous faites de la politique? Pourquoi c'est simplement pas un entraîneur qui décide footballistiquement de prendre un joueur?
Non, mais Stéphane, forcément, dans ce dossier-là, il est bien évident qu'il y a quelque chose de politique.
D'accord, bon, d'accord.
Il va y avoir une discussion entre les deux. Ils vont forcément évoquer le passé et cet épisode. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que Didier Deschamps attend d'Adrien Rabiot.
Ils peuvent ne pas se mettre d'accord sur le constat ?
Ce qui est certain, c'est qu'Adrien Rabiot, il est extrêmement heureux de revenir en équipe de France, parce qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est un gamin depuis le plus jeune âge, qui faisait les sélections, qui a parfois fait des choix dans son parcours scolaire, de ne pas il a dû repousser son bac d'un an pour pouvoir assurer des sélections. Donc, je veux dire, son amour du maillot, après, qu'il ait fait une erreur, ça c'est une évidence, qu'il ait formulé sa déception de la mauvaise manière, c'est une évidence, mais le procès en intention sur l'amour du maillot, ça, c'est pas possible avec Adrien Rabiot. Donc extrêmement heureux de revenir en équipe de France. Maintenant, il a un caractère qui n'a pas changé, et Didier Deschamps ne fera pas dire à Adrien Rabiot « Je suis désolé, j'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû avoir cette position-là. » Et je pense que Didier Deschamps le connaît suffisamment pour savoir qu'il ne va pas faire machine arrière. Donc, qu'est-ce qu'il attend de lui? Je ne sais pas.
Le joueur est talentueux, mais le caractère connaît parfois des
ratés. On peut rappeler aussi que, d'ailleurs, Mme Rabiot était passée par Philippe Sanfourche pour avoir le bon numéro, mais elle était intervenue sur la chaîne L'Équipe en direct en traitant Noël Le Graët de menteur. Elle avait eu une sortie ce jour-là, c'était il y a quelques mois.
Car le président de la Fédération française de football avait dit qu'il avait tenté une conciliation avec Madame Véronique Rabiot.
Elle était fâchée parce qu'on parlait d'Adrien Rabiot. Elle est intervenue, c'était d'une virulence assez incroyable. Et dans cette déclaration, elle disait d'ailleurs que Adrien Rabiot, si jamais il revenait pas en équipe de France, sa vie n'en serait pas bouleversée, que ce n'était pas le genre à se, entre guillemets, se prendre la tête.
Et Noël Le Graët publiquement dit que, de toute façon, personne ne doit être puni à vie.
Mais
on voit quand même bien qu'il y a,
David
même,
Aiello.
Pour moi, il y a deux poids, deux mesures, même si l'expression n'est pas forcément appropriée. Pour moi, la gestion du cas Rabiot, finalement, elle est très bonne. On sait ce qui s'est passé. On connaît tous les tenants et les aboutissants. Il y a eu effectivement une sanction qui n'était pas dite, mais voilà, pendant 2 ans, il a été écarté du groupe France. Il revient. Les deux hommes vont se parler. L'affaire est réglée. Dans le cas Benzema, et pour moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Gilles, cette histoire-là avec Benzema, elle est loin d'être réglée. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui comparent les deux situations. Elles ne sont peut-être pas comparables, mais peu importe. Pour les gens, il y a deux poids, deux mesures. Il y a un joueur qui est pardonné, l'autre qui ne l'est pas. Il y a une procédure judiciaire,
David,
effectivement.
David.
Attendez, juste termine.
La procédure judiciaire, c'est important.
Il y a une présomption d'innocence qui existe en France.
Mais
donc,
d'accord.
De toute façon, on ne peut pas s'appuyer là-dessus.
Mais d'accord.
Donc, pour le cas Benzema, je suis désolé. Pour moi, les choses ont été mal faites. Elles ont été mal gérées parce que les deux hommes ne sont jamais parlé. Ils auraient pu se passer un coup de fil. Aucun des deux n'a voulu le faire. Se dire, voilà, je te
C'est pas vrai, Karim Benzema. Didier Deschamps a appelé Karim Benzema pour lui annoncer sa non-sélection à l'Euro 2016.
J'ajoute
donc,
franchement,
il a appelé, Benzema n'a pas souhaité entamer un dialogue, était son droit.
Si on doit faire la synthèse de cela, Rabiot, le clash aîné de considérations qui sont discutables, considérations sportives et uniquement sportives. Benzema, le conflit est né d'un épisode qui a été déclenché en équipe de France avec Valbuena. Mmh. La justice. Quoi que dise son ancien responsable de la communication, Karine Jaziri, la justice est toujours dans la boucle, donc l'affaire n'est pas bouclée. Et le tout est agrémenté quand même d'allusions ou de propos assez largement extra-sportifs tout au long.
Mais d'accord, mais pourquoi c'est pas dit ça? Pourquoi est-ce que Didier Deschamps ne le dit pas?
Souvenez-vous cette tweet
moqueur. Pourquoi Didier Deschamps ne le dit pas?
Souvenez-vous cette tweet chambreur vis-à-vis d'Olivier Giroud. Bref,
il faut le dire. Pourquoi il ne le dit pas?
Le palmarès n'est pas le même.
L'affaire Rabiot, elle est bien réglée parce qu'il
a pas besoin de le dire.
Pourquoi il n'a pas besoin de le dire? Parce que justement, là, il y a un flou. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas besoin de le dire ?
Mais il n'y a pas de flou. Ne pas le dire, c'est l'entériner. Le dire serait reconnaître sa faiblesse. Je ne le prends pas parce qu'il n'a pas besoin de le dire. Il ne va pas dire,
mais
je ne prends pas Benzema parce qu'il est potentiellement en justice et qu'il pourrait être sanctionné. Je ne prends pas Benzema parce qu'il m'a accusé de céder aux pressions d'une partie raciste de la France, comme l'avait dit Cantona. Mais il ne va pas dire ça. Ça, ce serait un aveu de faiblesse. Sa force, c'est de ne pas justifier. Never explain, never complain. N'explique pas, ne te plains. Deschamps, il ne prendra plus jamais Karim Benzema. On peut le regretter pour le joueur, mais l'homme Benzema n'en reviendra plus.
Je pense que c'est mal géré. La preuve, c'est qu'on est encore aujourd'hui en train d'en parler 2 ans après, même 4 ans
après. On prend le débat dans un instant. Un crochet à Grenoble pour la coordination de la 2e journée du championnat de France de Ligue 2 en compagnie de Serge Puyot. Bonsoir Serge.
Christian, Alors ici à Grenoble, au Stade des Alpes, Grenoble mène 2-0 face à Toulouse. Des buts de Nestor et Anani. Sur toutes les autres rencontres, il y a 0-0, c'est-à-dire pour Rodez, Sochaux 3, Dunkerque Clermont, Niort-Chambly, Châteauroux-Auxerre, Le Havre Amiens et Paris FC Valenciennes. Cet après-midi, Caen a battu Ajaccio 1-0 et Nancy et Guingamp ont fait match nul, 2 buts partout.
Et cet après-midi également en Ligue 1, Rennes a battu Montpellier 2 buts à 1. Prochain rendez-vous Ligue 2 à 19h30. Les réseaux sociaux, beaucoup de messages à la fois sur la page foot du site RTL.fr, émission qui est filmée, je le rappelle, allez sur le site RTL.fr, et beaucoup de messages également sur le compte Twitter @RTLFoot. Baptiste Durieux.
Absolument, Christian, vous êtes nombreux à nous écrire, puis c'est un débat qui déchaîne les passions toujours. Le message de Zachary, l'équipe de France est sacrée. C'est la France, c'est ton pays. Quelqu'un qui refuse une fois une convocation, il ne doit plus jamais revenir. C'est l'avis tranché de Zachary. Message de Tristan. Si Deschamps rappelle Rabiot, très bien, c'est une bonne nouvelle. Mais je ne comprends pas pourquoi il ne rappelle pas Benzema. Pourquoi il ne passe pas l'éponge pour tout le monde. Personne n'est puni à vie, soi-disant. Et peut-être que Benzema sera pardonné en 2057, écrit Tristan. Puis dernier message d'Alexis. Heureusement, Rabiot, dans ses maladresses et ses polémiques, a une qualité. Il est beaucoup trop fort pour ne pas être en équipe de France. Finalement, comme Benzema, qui apparemment joue au tennis depuis plusieurs années.
Benzema, je vois pas le rapport.
Non, j'ai pas compris non plus.
Le manque de considération, c'est un petit peu ça.
Le manque de considération.
Par rapport à Benzema, c'est un peu ça qu'il veut dire notre auditeur. Mais si vous permettez, parce que tout à l'heure, Stéphane David Powell parle de présomption d'innocence, et je le rejoins. Je pense qu'il y a un moment, on fait que des faux procès. C'est comme l'histoire, Gilles, de l'histoire du racisme, que Didier Deschamps est raciste, mais qui sommes-nous
il
pour.
Il n'a pas dit ça. Hein,
non, non,
il a dit
d'autres
Deschamps
joueurs
qui ont
été
dans des procès.
Ok, Gilles, mais je veux dire, qui sommes-nous pour savoir si Didier Deschamps, quand je dis qui sommes-nous, pourquoi on doit juger Didier Deschamps? Est-ce qu'il ne prend pas Benzema parce qu'il est raciste? Mais non, il y a un dossier qui est en cours et on sait que la fédération a aussi mis son nez là-dedans. Je trouve que c'est
ça arrive à d'autres joueurs, ils ont été sélectionnés. Hein.
Voilà, c'est non,
mais au-delà
de
ça, c'est parce que c'est une affaire.
Philippe Sanfourche.
Qui se tient, le cœur de l'affaire se tient dans les murs de Clairefontaine. Ça se passe dans le cadre d'un rassemblement de l'équipe de France. Donc c'est aussi, il y a une imbrication quand même entre le judiciaire et le sportif sur ce coup-là. Maintenant, je suis d'accord que ce qui entretient un petit peu le malaise dans ce dossier, c'est que Didier Deschamps, d'ordinaire, excellent dans sa communication, capable de parer à tous les obstacles et à faire tous les contrefeux, objectivement, avant-hier, sur cette histoire, quand on l'interpelle sur Karim Benzema, il a une réaction de gêne. Qui n'est pas approprié.
Il savait très bien qu'on lui posait la question.
Il peut faire une non-réponse en disant je passe à autre chose, merci. Là, il a un petit sourire. Il ne sait pas s'il faut le prendre par le biais du comique. Il y a un petit malaise. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens de son entourage, moi, qui m'ont dit là, ça n'a pas été parfait. Autant il peut être bon à 95% du temps et on est les premiers à le dire, autant là, je trouve que... Mais ça dénote aussi, ça le rend humain, ça dénote une forme de malaise sur ce dossier qui est une évidence.
Silence gêné ou j'en ai plus rien à faire de vos questions concernant Benzema?
Moi, je trouve quand même en difficulté sur ce sujet parce que, à mon avis, on ne sait pas tout et qu'on saura encore davantage de choses dans quelques années. Moi, je pense qu'il ne peut pas le prendre. Voilà, et que ça met... Ils ont peur.
On ne sait pas tout, mais vous devinez quelque chose, Sébastien ?
Non, je veux pas.
Non, je pose la question. Hein.
J'entends des choses, mais que tant que je les ai pas vérifiées, je veux
on
pas
en
parler.
On sent bien.
Moi, je pense qu'il ne peut pas le prendre et qu'ils ont peur. Si jamais il revenait, au-delà de l'aspect sportif, parce qu'on peut aussi discuter de l'aspect sportif. Attention, mais ils auraient peur que ce soit une bombe à retardement qui puisse éclater au moment d'une compétition ou au moment d'un stage à Clairefontaine.
Gilles Vervel.
Je suis pas du tout d'accord avec Philippe et Sébastien sur le fait que Deschamps ait commis une erreur de communication. C'est au contraire génial. Il fait tout son truc sur Rabiot. Rabiot revient. Il n'y a plus de sujet de Benzema.
Mais non,
Mais c'est pas Deschamps qui en parle.
Benzema, bah oui, pour Deschamps, il a rien
pour
du tout.
Pour Deschamps, Benzema n'existe plus. Donc il ne va pas réactiver le dossier Benzema.
Le reste de la France ne parle pas de ça.
Mais c'est une manière de dire.
Il
n'y a plus de sujet Benzema.
Je ne réponds même pas.
Mais il dit d'ailleurs, monsieur, votre question est très bien amenée. Autre question. Il y a tellement plus de sujets que je ne réponds pas.
Il y a plus de jeunes que ça, quand même.
Question,
Stéphane Powels.
Un peu comme Sébastien et Gilles. Et crois-moi, et je n'ai pas la boule de cristal, je me suis retrouvé un an avant la Coupe du Monde à une table à côté de monsieur Didier Deschamps avec une table de joueurs de France 98. On discutait comme ça. Et ce qui était là ne pouvait pas sortir. Et d'ailleurs, ça n'est jamais sorti. Mais quand on a parlé de ce dossier...
Ça n'a pas tardé, déjà.
Non, j'ai pas fini. Quand je lui ai posé la question à un moment, c'était le sujet, tu sens qu'il botte en touche pour les mêmes raisons que dit Sébastien Tarrago. Il botte en touche parce qu'il ne peut pas en parler et qu'il y a des choses que ce n'est pas lui qui a décidé. On lui a demandé de ne pas le prendre. C'est clair, il ne le dit pas ouvertement.
Mais tu veux le dire politiquement, là, Stéphane.
Je te dis que politiquement...
Au plus sommet de l'État, on lui a demandé de ne pas prendre Karim Benzema pour des raisons politiques.
Christian, quand on s'appelle Didier Deschamps... Quand on est Christian... Attendez, j'ai juste terminé. Quand on est Didier Deschamps et qu'on connaît le football... comme lui l'a été, comme joueur et sélectionneur, ne pas prendre Deschamps, c'est autre chose que le football.
C'était sous François Hollande, hein?
Non, mais
c'est autre chose que le football.
Il y a une action,
Allons-y.
Il y a une action en justice. Il y a une enquête. Il y a beaucoup de choses.
Sébastien.
Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. On a notamment eu accès à certaines écoutes où il parlait très très méchamment, on va dire, d'un coéquipier qui s'appelle Mathieu Valbuena. Mais tout n'est pas sorti. Voilà, tout n'est pas sorti. Et Karim Benzema, il a été écouté très, très, très longtemps.
Voilà. Non, tout n'est pas sorti à propos de Didier Deschamps.
Ben, il sait des choses qu'il ne peut pas dire.
À propos de Karim Benzema.
Mais bien sûr. Et il se tait.
Mais non,
il
à un moment, il considère, il au pluriel, il considère que le retour de Karim Benzema serait potentiellement plus dangereux que la plus-value qu'il pourrait avoir sur le plan sportif. C'est tout. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Moi, je ne le juge pas. Mais à l'heure qu'il est, la question ne se pose même pas, même si Karim Benzema marquait 178 buts par saison.
Messieurs, il nous reste 5 minutes pour parler du reste de la liste de Didier Deschamps avec de nouveaux venus. D'ailleurs, c'était ma question en toute naïveté. Franchement,
quelle bonne question.
Mais il n'était pas question de parler de Karim Benzema.
Non, non.
Je voulais parler d'Adrien Rabiot et je voulais parler également d'Eduardo Camavinga et de Dayo Upamecano.
Mais Upa.
Bon, ça, ce sont de bonnes surprises dans la liste de Didier Deschamps.
Ben, je sais pas, ça paraît logique. Camavinga n'était pas sélectionné au départ. C'était Paul Pogba. Paul Pogba a été testé lui aussi positif au coronavirus. Au Covid-19, donc il y avait une place qui se libérait. Didier Deschamps, d'ailleurs, il s'en est pas caché. Hein. Il a dit que c'était un peu tôt, qu'il aurait sans doute attendu un peu plus, mais que là, c'était l'occasion de le voir. Mais bon, tout le monde a vu qui était Camavinga, ce qu'il avait dans les pieds, ce qu'il avait aussi un peu dans la tête. Donc il y a sans doute peu de risques avec ce garçon. Ou pas Mécano, on a vu à quel point il pouvait être performant. C'est un test, c'est normal. Zouma, c'est pas intouchable en équipe de France. C'est pas tout à fait le même poste, mais on sait qu'Umtiti aujourd'hui n'est plus en état de jouer. Bon, voilà, tout ça, il est arrivé, c'est logique, il a 21 ans, certes, c'est jeune, c'est un garçon qui était international espoir, qu'il a vu au championnat d'Europe espoir il y a quelques mois. Bon, voilà, c'est un essai.
Le dernier rassemblement à 10 mois. Donc c'est logique aussi qu'il y ait peut-être un ou deux changements supplémentaires.
Et surtout que moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette conférence de presse, c'est l'ouverture tactique, l'évolution tactique possible. Et j'ai trouvé justement, pour un entraîneur qu'on a souvent critiqué pour son conservatisme dans ce domaine-là, le fait qu'il confirme un petit peu ce qu'on avait vu l'automne dernier sur la possibilité de jouer à 3 derrière, en tout cas pas forcément sur un système privilégié, mais de se dire voilà, on va pouvoir tester d'autres parce qu'on a 8 matchs et qu'on va pouvoir partir sur des solutions alternatives, parce qu'après tout maintenant on a compris comment jouer l'équipe de France et ça serait quand même bien qu'on ait des alternatives. Moi, ça m'intéresse.
Moi, je ne sais pas comment elle joue.
Sébastien ?
Non, c'était juste une parenthèse. Bref, mais David dit, on sait comment l'équipe de France joue. Moi, je ne sais pas.
C'est marrant parce que dès
Là, je vais être clair. Hein, je vais faire simple. On ne sait pas comment elle joue, mais elle est championne du monde.
Je ne critique pas ses résultats, mais on dit, on sait comment elle joue. Moi, je ne sais pas.
C'est-à-dire que ses adversaires non plus.
Gilles est chaud. Il a son petit sourire. Il a sa punchline.
Vous comprenez pourquoi Deschamps adopte cette stratégie politique de communication ? Parce que dès qu'il laisse l'espace d'un millimètre, l'anti-France revient. L'anti-France revient. L'anti-France, on a été champion du monde, mais comment on a joué ?
Mais avec tout mon respect, tu ne peux pas montrer du doigt Sébastien et dire l'anti-France.
Vous savez quoi ?
Ça m'agace.
Il faut du football.
Non, mais parce que Sébastien est un garçon poli et il n'ose pas répliquer.
J'ose répliquer, mais là, franchement, vous savez, il y a des choses, ça me passe au-dessus.
Rien à répliquer.
Non, j'aurais dit l'anti-Deschamps peut-être. L'anti-Deschamps peut-être.
L'anti-Deschamps.
Ah, c'est pire.
Non,
c'est pire.
Non, sur pas le plan sportif. Tout, sur le plan sportif. Hein.
D'excellente.
Sébastien, faut grande que je
estime
sois très clair.
Pour, grande estime pour Didier Deschamps. J'ai de très bonnes relations avec lui. Après, ça ne m'empêche pas d'émettre des critiques sur le jeu.
Ce qui est normal.
De l'avoir fait pendant la Coupe du Monde. Moi, certains considèrent que la victoire. Mérite tout et tous les sacrifices. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le football, c'est le jeu, mais j'ai aucun souci avec ceux qui disent l'inverse.
Quand je dis anti-Deschamps, c'est l'anti.
Ah, en aucun cas.
Et
d'ailleurs,
jeu proposé
d'ailleurs voilà, en 2018, je l'ai effectivement débat, pas mal critiqué, il le sait. Mmh. Il m'en a pas tenu rigueur plus que ça pendant quelques semaines, peu importe.
Christian, il a fait Marseille, pas, il a fait l'Italie. Attendez, il sait ce qu'est la critique.
Mais moi, j'ai beaucoup de considération. Mais j'ai beaucoup de considération. Mais après, quand Didier Deschamps, il met Matuidi milieu droit.
Excusez-moi,
Gilles, c'est pas l'anti-France.
On va bientôt dire qu'on méritait pas d'être champion du monde, mais Gilles, personne n'était meilleur que nous.
En quelques secondes, ce sera difficile, Stéphane.
Vous parlez avec un Belge qui a perdu la Coupe du Monde en demi-finale contre l'équipe de France. Eh bien, c'était des choix.
Toi, t'étais pour la France.
Non, je dis que l'entraîneur a fait la différence, l'entraîneur français par rapport à l'entraîneur belge. Après, on peut émettre un avis sur la manière de jouer. Juste pour terminer, le côté très sexy, c'est ce jeune Kamavinga, là, quand on a encore vu ce qu'il fait aujourd'hui, moi je trouve ça, c'est peut-être un peu jeune. Waouh, vous avez des joueurs comme ça en équipe de France, on va pas se plaindre quand même, ils sont en sélection.
Alors
moi
j'ai Lukaku.
Je suis un pro Dédé, ne me chauffez pas avec Lukaku. Moi je dis bravo Dédé, il est champion du monde. Et quand on est champion du monde, on respecte son entraîneur.
Encore une fois qu'on dit bravo.
19h29, les amis.
Encore heureux. Mais
moi je ne suis pas.
On a parlé de l'équipe de France, on va parler de la Ligue 2, mais avant la Ligue 2, les réseaux sociaux avec Baptiste Durieux.
Oui, beaucoup de messages sur @RTLFoot de Fabrice, notamment Didier Deschamps, c'est quand même l'art de concilier des piliers qui ont la clé de leur chambre à Clairefontaine avec une jeunesse talentueuse qui a besoin d'être encadrée, une finale d'Euro, une Coupe du Monde et un magnifique management pour préparer l'avenir. Merci la Dèche. Et puis message de Corentin, toujours du mal avec les nouveaux noms sur la liste. On sait tous que Kamavinga a plein de choses à montrer, comme Upamecano, mais on sait tous que Sissoko finira titulaire la semaine prochaine et que les petits jeunes joueront le temps additionnel.
Il faut répondre à la question, messieurs, du nouveau dans la liste de Didier Deschamps. Alors les anti-Dédé, on se décoince un peu, Philippe Sanfourche?
Il faut se décoincer. Donc
mais je sais que la question est difficile, donc la réponse est forcément embarrassante.
Est-ce que vous a paru coincé pendant une demi-heure?
Alors oui ou non, on se décoince un peu.
Évidemment, on se décoince.
Bah oui, Sébastien Tarrago.
Écoutez, si
vous êtes décoincé,
bien sûr.
Bon,
évidemment.
Allez, David Aiello.
On n'a jamais été coincé sur Didier Deschamps.
Ah là 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 là, un peu de feu d'archerie fait pas de mal dans ce débat. Gilles Verdez.
Moi, je suis pro Deschamps, mais je voudrais qu'enfin les anti comme Sébastien se décoincent. Oui, c'est pas gagné visiblement.
Il va vite me fatiguer. Mais vous avez vu comme je suis de bonne humeur, hein? Est-ce que ce sera comme ça la prochaine fois? Je sais pas.
Bon, la prochaine fois, je ne le mettrai pas en face de toi. Stéphane Powell, ça.
J'aime autant Dédé que Sébastien Tarrago. Voilà, c'est la même chose. On est bien, on est heureux.
La Ligue 2, Serge Puyot, c'est plus calme à Grenoble.
Oui, il y a début à Grenoble. Grenoble mène devant Toulouse 2-1. But grenoblois Nestor et Anani, but à l'instant de Toulouse par Bayo. Sochaux mène devant 3-1-0, un but de Lopi. Sur toutes les autres rencontres, Pau Rodez, Dunkerque Clermont, Niort-Chambly, Châteauroux-Auxerre, Le Havre Amiens et Paris FC Valenciennes 0-0. Cet après-midi, Caen a battu Ajaccio 1-0 et Nancy et Guingamp ont fait match nul, 2-2.
Merci beaucoup Serge Puyot.
Et le troisième but de Grenoble marqué à l'instant même par Jesse Benet. Donc Grenoble qui mène maintenant 3-1 face à Toulouse.
Merci Serge, on a parlé de Messi.
Comme vous dites, ça va être difficile. Hein.
On a parlé de Messi, on a parlé de l'équipe de France, on parle de la Ligue 2,
ouais.
De la bienveillance, de l'expertise, du sourire, de
l'amour.
L'amour. Et on va désormais parler d'un report qui a également agacé quand même pas mal de monde.
Ah ça va nous énerver, pas content.
Le report de Lens Paris Saint-Germain. Au-delà de ce report,
ça m'a gonflé.
Qui gouverne le football?
Qui?
Voilà. Allez, 30 secondes d'interruption.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Et tous les chroniqueurs, toujours encore dans la bonne humeur. Philippe Sanfourche, Sébastien Tarrago, Stéphane Powels, Gilles Verdez et bien sûr David Aiello. 20h, on ne refera plus le match. Ce sera RTL Foot.
Ce sera RTL Foot.
À avec notamment, mais pas seulement, plein de surprises, plein de rendez-vous, l'intégralité à 21h de Strasbourg-Nice. Et puis à 19h45, une petite nouveauté. Alors il faudra faire preuve d'indulgence à mon endroit, car tout ne sera peut-être pas parfait, même si parfois l'indulgence est le début de la faiblesse. Ce sera les tirs au but. C'est-à-dire que je vous proposerai un certain nombre de sujets qui n'ont pas été purgés dans cette émission. Et au coup de sifflet, on verra qui. Vous savez, au tir au but, il faut toujours avoir du caractère, le mental. Il y en a qui se dégonflent, il y en a qui se cachent. On verra donc au coup de sifflet celui qui voudra prendre la parole pour répondre ou pour tenter de lancer le
débat. On va laisser Gilles. Grosse, grosse pression.
Powell Swerdez, en général, veut plutôt prendre la parole et bouffer le micro. Il va falloir être compliqué.
Bon, je pense qu'en temps de parole, tu étais pas mal aujourd'hui. Je vais prendre le chrono, à mon avis, tout de suite du lot.
Alors, le report de Lens Paris Saint-Germain. Là, ça a fait couler évidemment beaucoup de salive, beaucoup d'encre. On rappelle le contexte. Le Paris Saint-Germain, avant la finale, sans savoir si les Parisiens allaient gagner ou perdre, la veille, non pas l'avant-veille, c'est précis, le samedi, font une demande officielle à la Ligue du football professionnel. Le lundi matin, la Ligue interroge le Racing Club de France pour le Racing Club de Lens pour savoir si le club nordiste est OK. Le club est OK et dans la foulée, le diffuseur Canal donne également son accord. Nous avons joint Didier Quillot après l'annonce officielle qui nous a dit « la Ligue n'a fait qu'appliquer les textes ». À la Ligue, ça a été voté à l'unanimité. Personne n'a trouvé à dire ou à redire sur cette décision. Les textes ont été appliqués. Donc, le règlement, tout le monde le connaît. Nous avons appliqué les textes. Et donc, Lens Paris Saint-Germain se jouera le 10 septembre. Première date disponible. Est-ce que vous trouvez ça scandaleux?
Est-ce que c'est pour autant une bonne décision?
Je pose la question. Enfin, vous la posez. Mais
la différence entre un bon exécutant et un grand dirigeant, c'est peut-être aussi de faire en sorte que les textes viennent appuyer vos décisions et pas l'inverse. C'est ce que fait Noël Le Graët régulièrement.
Oui, mais le règlement, c'est le règlement.
Oui, mais on peut parfois s'en arranger du règlement et on peut faire en sorte que... Si, si. Moi,
quand un club participe à une compétition, quand un coureur s'élance sur une étape du Tour de France, il connaît le règlement.
Dans cette histoire, il ne vous aura pas échappé quand même qu'on est dans une période particulière, que le championnat de France a repris à des dates particulières, qui déjà étaient contestables par rapport au fait que la Ligue des Champions se tenait en même temps. Donc je pense que sur ce dossier, la Ligue aussi se dit on n'est pas forcément en position de force pour refuser quelque chose au Paris Saint-Germain. Derrière, qu'est-ce qui empêche aux Lensois qui aujourd'hui nous disent « Oui, on serait passé pour les vilains canards. » T'es dirigeant de club, tu reviens en Ligue 1, tu as décidé de faire de ce rendez-vous face au PSG un événement. Tu refuses ? Tu dis non ? Et l'affaire, elle est réglée ? Mais le Paris Saint-Germain, on dit oui, c'est la Ligue du Paris Saint-Germain. Moi, je veux dire, moi, j'ai un petit garçon, il me demande tous les jours de commencer par le dessert et de ne pas faire l'entrée. Mais si je lui dis oui à chaque fois, c'est de ma faute.
Lens a dit oui sans broncher.
Le PSG, ils ont tout à fait raison de demander.
Lens
par contre,
dit oui sans
qu'on accepte, que Lens accepte, que la Ligue accepte, c'est ça qui est scandaleux, c'est tout.
Gilles Verbez.
J'ai beaucoup critiqué la Ligue, mais là, je ne suis pas d'accord avec Philippe. Je dis bravo, Quillot. Cette décision, elle est formidable.
Ah bah oui.
Nos héros étaient fatigués. Nos héros parisiens étaient fatigués. Laissons-les se reposer. Mais Philippe, vous serez le premier à dire la saison a été rude, Mbappé est blessé, quel drame, etc. Laissons-les se reposer, ils méritent bien cette semaine.
Bon, alors qu'ils n'aillent pas non plus en sélection et qu'ils n'aillent pas en équipe.
Non, mais ça, c'est autre chose. Alors après, pourquoi c'est une bonne décision aussi? Parce que Lens voulait en profiter, et ça c'est très bien, pour négocier avec le préfet. C'est pour ça que Lens a accepté. C'était pour négocier avec le préfet une augmentation de la jauge. Malheureusement pour Lens, ça ne se fera pas. En douce, ils commençaient à discuter, ça ne se fera pas. Le contexte sanitaire ne s'y prête pas. Mais ils se sont dit, si on peut obtenir 10 jours de plus et jouer avec un stade Bollard davantage plein face au PSG, c'est tout bénef. C'est pour ça qu'ils ont accepté. Ça n'a pas été beaucoup dit, mais c'est la vraie raison.
Même si le maire de Lens s'est insurgé face à cette décision.
Oui, mais le maire, c'est pas le club. Mais le PSG était d'accord, Lens était d'accord, je dis vive la Ligue.
J'aimerais bien que les maires commencent à s'occuper déjà de leur administration et des sujets importants de notre société et de leur commune, et qu'ils laissent le football de côté. C'est valable pour le maire de Bordeaux. Mais moi, c'est une polémique, j'avoue, que je ne comprends pas. Je n'ai pas compris. J'ai essayé de comprendre les arguments de tous les gens qui étaient choqués, et la plupart des gens sont choqué, voire scandalisé, je lis, j'entends, et je ne comprends pas. Tout le monde est d'accord, le Paris Saint-Germain demande, Lens est d'accord, le diffuseur est d'accord, et on se plaint sans arrêt de l'indice UEFA de la France. L'équipe du Paris Saint-Germain est allée en finale de la Ligue des Champions, elle demande effectivement un report de son match, un match. Est-ce que le PSG a raison de demander? Je ne crois pas.
C'est
mais,
bien.
Je n'arrive pas à saisir. Tout le monde est d'accord. Tout le monde.
Mais ça va pas quand même.
Sauf le maire.
Ça va pas quand même.
Alors, Stéphane Pauwels.
Lyon, pour information, ils ont joué, hein, alors qu'ils étaient aussi fatigués. Mais ça, c'est juste pour l'anecdote.
Ils ont pas joué la finale.
Oui, d'accord. Il y avait 4 jours de récupération de différence. Bah oui, pour aller jouer à Lens. Ils ont plus gros noyau pléthorique que le Paris Saint-Germain. Pas me dire à moi qu'ils n'étaient pas capables d'aller faire une équipe. C'est autre chose pour aller jouer à Lens. Il y a autre chose. Et dans le journal L'Équipe aujourd'hui, il y a un bon papier qui est fait. C'est une petite économie aussi. Tout ce qui se passe autour du match de football. Et c'est ça que les Lensois, le peuple lensois est triste. Il y a les pains saucisses mieloche, il y a la boulangerie du coin. Mais laissez-moi finir. Et c'est ça en fait. Mais comme c'est Lens.
5000 personnes.
Mais comme. Non, je vous parle de ce qu'il y a autour. Les commerces, les restaurants.
Sur ce match-là.
Alors, je vais juste vous dire que comme c'est Lens qui remonte en Ligue 1, comme il y a une ferveur populaire, c'est un club qui représente quelque chose. Voilà pourquoi il y a une fausse polémique. Si c'était le premier match, je ne vais pas citer de nom, mais de Dijon, on aurait peut-être moins de polémique.
Parce que c'est le Paris Saint-Germain.
Parce que c'est le Paris Saint-Germain et parce que c'est Lens. Il y a les deux phénomènes. Il y a un phénomène social avec Lens, donc tout le monde trouve ça génial de les retrouver en Ligue 1, avec une ferveur populaire et une économie tout autour. Et puis c'est le Paris Saint-Germain. Alors on allume parce que c'est le PSG. Mais moi je rejoins un peu les copains ici.
Ils vont à Ibiza.
Tout le monde. Parce qu'on met des photos qui vont à Ibiza, qui font des selfies. Alors, mais ils ont le droit d'aller à Ibiza. Mais s'ils sont en vacances, ils vont où ils veulent. Non, je veux juste te dire que c'est une fausse polémique. Tout le monde a donné son accord. Voilà. Et donc c'est un peu con cette polémique, mais c'est juste parce que c'est le PSG et c'est Lens.
Et l'entraîneur de Lens, Franck S. Si on avait été dans cette même situation, on aurait fait la même chose.
Voilà, donc il y a quand même un point, Stéphane, tu parles de l'équipe l'article de nos camarades de l'équipe dans laquelle on évoque la situation des petits commerces, etc. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est que si par bonheur Lens se qualifie pour la Ligue des Champions la saison prochaine, les matchs ça lui en semaine dans l'histoire. Donc c'est le jeudi, ça devient une catastrophe. Comment est-ce qu'ils vont faire pour jouer des matchs? Il y a des matchs de coupe, il y a des matchs de coupe d'Europe qui sont également disputés en semaine. D'un seul coup, ça devient un drame absolu de devoir jouer un match.
Mais ils sont tellement en attente. Tu sais, le peuple lensois.
L'histoire, c'est que le maire de Lens a soufflé sur des braises immédiatement pour des raisons politiques évidentes et que derrière, évidemment, tout le peuple lensois, qui on le sait par ailleurs pour des raisons sociales, est parfois pointé du doigt.
On s'en fout du maire de Lens.
Il y a quand même un petit problème.
Philippe Sanfourche, oui. Sébastien Tarrago, Stéphane Poët, Gilles Verdez, David Ayello. Il y a quand même un petit gros problème.
J'espère que vous allez le soulever. Parce
c'est que ce match aura lieu 2 ou 3 jours.
Deux jours après France-Croatie.
Oui. Et 3 jours avant Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Ouais. Là, pour le coup, le calendrier est complètement.
C'est le problème du PSG.
Mais oui.
Mais attendez, le PSG a demandé ce report en sachant, j'imagine qu'ils ont quelques juristes, en sachant à quel moment il risquait d'être placé. Et le Paris Saint-Germain juge qu'il est préférable de jouer ce jour-là, puis d'enchaîner effectivement sur plusieurs matchs, parce que le mois de septembre va être costaud pour le Paris Saint-Germain, plutôt que de jouer à la date prévue. C'est leur problème. Si Kylian Mbappé joue, Kylian Mbappé ou Presnel Kimpembe joue avec l'équipe de France 2 jours avant, ils auront le droit de jouer après 48 heures. Mais le PSG fera ce qu'il veut avec l'accord de ses joueurs, mais c'est leur problème.
Ouais. Et je pense qu'il a été aussi bien étudié dans le calendrier que le match important, c'est celui face à la Suède.
Bien sûr.
Et que le France-Croatie, vous verrez que Kimpembe et Kylian Mbappé seront certainement exemptés. Moi, il y a un élément qu'on n'a pas encore discuté, c'est qu'on est quand même dans une période où chaque match est sous un couperet. C'est-à-dire que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Il y a déjà suffisamment de risques comme ça. Et pour des raisons de confort, on va décider de reporter.
C'est très stupide.
Donc pour moi, je trouve que la Ligue, de ce point de vue, n'est pas responsable.
La Ligue n'est pas responsable, mais le PSG ne demande pas non plus le report.
Mais encore une fois, le PSG demande ce qu'ils veulent, on n'est pas obligé de leur accorder.
Oui.
Je n'arrive pas à comprendre votre raisonnement, vous qui êtes toujours parfaitement intelligible et structuré, là je ne comprends pas. Vous êtes en train de dire que la Ligue aurait dû refuser, donc que Mbappé aurait dû jouer là à Lens et se blesser potentiellement. Et après, vous et moi aurions déploré pendant des mois la blessure de Mbappé. Mais parce qu'ils sont usés émotionnellement, physiquement. Ils sont. Vous riez.
Mais ils doivent faire du curling.
Moi, je vous pose une question. Si le PSG avait gagné la Ligue des Champions et avait demandé, ça vous choquerait tout autant ou pas? Ils seraient partis faire une semaine la fête, etc. Et là, ils auraient demandé longtemps, vous auriez dit quoi?
Vous êtes une lumière pour nous dans ce métier. Vous vous souvenez formidablement bien de ce qui s'est passé en 1993 quand l'Olympique de Marseille a gagné sa Ligue des Champions.
Oui.
Ils n'avaient pas un match important 3 jours après au Vélodrome contre
magnifique
le PSG.
Magnifique match d'ailleurs.
Et ils l'ont remporté et ils l'ont sacrément remporté.
Oui.
Donc je veux dire, sur la dynamique de la victoire ou dans la douleur de la défaite, 6 jours plus tard, quand vous avez fait la préparation que le Paris Saint-Germain a fait pour être au rendez-vous sur ce tournoi et enchaîner derrière sur une grande saison, je ne vois pas où se trouve le problème.
Non, mais de toute
façon, qu'ils aient envie
qui demandent encore une fois pour pouvoir effectivement certains aller à Ibiza, d'autres rester avec leur famille, se régénérer. Très bien, ils ont leur raison, c'est pas un problème. Mais la Ligue qui n'a pas joué, qui a fait le choix de ne pas reprendre, enfin, qui l'a fait et qui a été aussi poussé à ne pas le faire, on n'y reviendra pas là. Mais je veux dire, la reprise de la Ligue 1, ça doit être un événement. On nous a dit, on nous a seriné qu'il y avait un nouveau contrat télé, que c'était, qu'il fallait remettre la Ligue 1 au centre de tout, que Lyon et le PSG ne se sont pas non plus gênés pour communiquer sur le fait qu'ils représentaient la Ligue 1, cette fameuse Ligue des fermiers qui a été raillée par nos amis anglo-saxons. Bon, tu remets la Ligue 1 au centre et trois jours après, tu dis bon, ah non, c'est pas grave, on rate le match de reprise, on le fera plus tard, c'est pas un souci. Le signal envoyé, il est pas bon.
Ils sortent d'une bulle psychologiquement éreintante. À Lisbonne, c'est pas du tout pareil que les matchs normaux. Je trouve que vous mésestimez ça. Mais moi, franchement,
Gilles, t'exagères quand c'est des joueurs professionnels qui gagnent bien leur vie, ils s'entraînent.
Ça n'a rien à voir.
Attendez de dire que ça n'a rien à voir. C'est des joueurs de football comme tous les joueurs de football.
Franchement, ça m'embête. Mais je suis d'accord avec Gilles.
Mais non, faut arrêter. Ah, donc ils sont dans une bulle. Les petits cocos, ils doivent se reposer.
Mais de toute façon, Stéphane, la question n'est pas là-dessus.
Mais allez, on fout vraiment de la gueule du monde.
C'est pas une question de gestion physique, c'est une question de gestion sociale. Le Paris Saint-Germain a voulu acheter la paix sociale dans son vestiaire. Et ça, bon, c'est leur problème, encore une fois. Ensuite, effectivement, la balle était dans le camp de la Ligue et dans le camp de Lens.
J'ai envie de pleurer quand je vous entends. Il faut les envoyer en vacances parce que les petits cocos sont fatigués. Ils ont perdu la finale de Champions League.
C'est pas ça le souci.
J'ai envie de pleurer, moi, quand
je te dis que ce n'est pas ça le souci. C'est pas ça la question.
Ils auraient mis une équipe B. Le match avait eu lieu, il y aurait une équipe B du PSG, il n'y aurait pas eu Neymar, il n'y aurait pas eu Mbappé, il y aurait pas eu les meilleurs.
Et les mêmes
auraient hurlé, Stéphane, vous auriez hurlé, parce que Philippe, il est plus posé, mais vous auriez hurlé. Oui, alors là, le PSG méprise Lens et met une équipe B. Ben non, ils mettront la meilleure équipe le 10 septembre.
Et tout le monde sera content. Il se met bien avec les gens d'RTL, et les autres, il y va.
Ça fait 20 ans que ça dure.
On m'avait un peu embrouillé dans ce débat. Alors,
c'est pas possible.
Pourquoi ?
Non, je pense pas.
La phrase la plus limpide que je puisse retenir, c'est celle de Sébastien Tarrazou. C'est-à-dire, je ne comprends pas cette polémique. Alors.
Voilà, très bien.
Sujet suivant.
Je vous l'ai dit aussi. C'est une fausse polémique.
C'est juste parce que c'est le PSG et Lens. Et que c'est la première journée du championnat.
Non, mais là, vous avez raison, et où Philippe a raison, c'est qu'elle a soulevé l'émotion, cette polémique. On en a parlé pendant des jours. Donc après, nous, on n'est pas d'accord sur cette polémique, mais la question s'est posée. Là, c'est incontestable. Bon. Vous avez raison.
Sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on évoque ce report maintenant qui a été annoncé il y a plus de 5-6 jours, de mémoire ?
Oui, tout à fait, Christian. Et il n'y a rien de positif. Vincent, Lens PSG décalé au 10 septembre, soit deux jours après France-Croatie et trois jours avant l'OM. Est-ce que quelqu'un réfléchit à la Ligue ? Point d'interrogation, message de Pierre. Une honte, un mépris absolu de Lens et de la Ligue 1. Il fallait au moins le décider après la demi-finale. Illogisme total de la part du PSG. Et puis le leadership de la Ligue, toujours porté disparu. Et puis message de Bastien qui pense à Didier Deschamps. Tiens, donc si j'ai bien compris, si Deschamps fait jouer Kimpembe et Mbappé, il sera accusé de ne pas soutenir le PSG. Et s'il ne les fait pas jouer, on l'accusera d'être acheté par le Qatar. Absurde, c'est une décision qui est extrêmement gênante.
Ouais, alors là, il faut écouter Philippe Sanfourche qui pronostique que Mbappé et Kimpembe, pour le coup, ne joueront pas les 90 minutes pleine et entière contre la Croatie. C'est un peu.
Il allait s'entendre d'ailleurs.
Deschamps s'est élevé d'ailleurs contre cette décision de la Ligue du football
évidemment,
professionnel.
Évidemment, parce que Deschamps, il se bat toujours pour son calendrier international, pour ce football de sélection qui, année après année, est un petit peu plus fragilisé et corné. Donc c'est logique.
Alors, le report de Lens Paris Saint-Germain, oui ou non, pour récupération supplémentaire après la finale de Ligue des Champions, est-il scandaleux, Philippe Sanfourche ? Ah, c'est oui ou c'est non.
Scandaleux.
Non, oui ou non. Il est scandaleux
mais
ou pas ?
Mais en tout cas, moi, il ne me convient pas.
Oui, il est scandaleux, donc.
On va dire qu'il s'il ne vous convient pas, il est scandaleux.
Sébastien Tarrazou.
Qu'est-ce qu'il faut avoir, c'est dans l'outrance.
Non, pour Sébastien Tarrazou. Stéphane Powell.
Non.
Non pour Gilles Verdez.
Non plus.
Non pour David Aiello. 19h46, toute petite respiration. Et ensuite, les 15 dernières minutes dont refait le match version tir au but. On va voir, messieurs, là, si vous êtes fort, si vous avez du mental, ou si vous vous cachez derrière votre petit camarade. Hein, on va voir, Stéphane Poès.
Si vous mettez une mine au-dessus de la transversale.
Les tirs au but. On va purger tout le reste de l'actualité. Et au coup de sifflet. Attention, ce sont les tirs au but. Donc, au coup de sifflet, le premier argument tombe et on verra s'il est pertinent. À tout de suite.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL avec Christian Olivier.
Dans 12 minutes, RTL Foot avec Eric Silvestro, toute son équipe, Giovanni Castaldi et l'intégralité, mais pas seulement, du match qui débutera à 21h entre Strasbourg, le Racing Club de Strasbourg, et Nice. La séance de tir au but. Alors attention messieurs, faut pas se cacher, faut être le plus rapide. Non, c'est pas un jeu, hein, c'est, attends, je vous vois vous approcher des micros. Là,
attention. Gilles est capable de sauter sur Sébastien.
Mais il faut être rapide, pertinent, et il faut surtout attendre le coup de sifflet.
Il faut lever la main ou pas ?
Non, non, vous y allez, vous y allez. Il faut attendre le coup de sifflet et puis pas
ça,
de feinte. Pas
ça
de
risque
feinte.
D'être très audible cette histoire.
On va voir, vous allez voir. Alors attention, au coup de sifflet, vous démarrez. Oui. Lyon, vainqueur de Dijon 4-1 hier soir. Héritage de la Ligue des Champions ou conclusion prématurée ?
Exceptionnel.
Non, mais attendez le coup de sifflet final, vous êtes éliminé Stéphane Powell.
J'ai entendu le coup de sifflet.
C'est à refaire, c'est à refaire. Et Stéphane Powell s'est éliminé. Coup de sifflet.
Mais c'est une conclusion prématurée pour la simple et bonne raison qu'il y a un mercato déjà et que quelle équipe aura l'Olympique Lyonnais cette saison, moi je ne le sais pas. Est-ce que Memphis Depay qui a marqué quand même 3 buts, certes 2 sur penalty, sera-t-il là? Oussama Aouar qui a dû être forfait pour ce match, mais sera-t-il là? Etc. Quel effectif aura Rudy Garcia cette saison? Voilà.
Moi, je pense que, évidemment, ça demande toujours confirmation, mais je trouve que ça a bien démarré, ce championnat pour l'Olympique Lyonnais. Cette manière, mener 1-0 à domicile dans des circonstances qu'on a vues 50 fois à Lyon, c'est-à-dire l'OL qui tient le ballon, l'OL qui fait des centres, les centres qui n'arrivent pas, un manque de qualité dans le dernier geste, et puis on prend un but, et derrière, terminé, ça part à volo. Là, ils se sont remis la tête dans le guidon.
Face à Dijon.
Très, oui, mais alors on en a vu des face à Dijon où ça revenait pas justement.
Avec 43 centres côté gauche.
J'espère qu'ils se sont façonnés quand même une capacité à pouvoir aller au combat durant cette compétition qui va rester, qui peut perdurer un petit peu.
Bon, alors il boude Stéphane Powell parce qu'il n'a pas entendu le coup de sifflet.
Si je l'ai entendu,
allez,
j'étais plus vif que les autres.
T'as tiré le penalty au moment du coup de sifflet, c'est pas possible.
Juste que c'est marrant que quand c'est l'Olympique de Lyon, c'est jamais exceptionnel. Si c'était un autre club, en gagnant 4-1, on aurait dit génial. C'est l'effet Garcia, on raconte ce qu'on veut. Mais ils ont proposé des choses en Champions League complètement intéressantes. Et ils nous ont proposé du jeu avec un état d'esprit, avec des joueurs de qualité. Et donc moi je pense que Lyon, on va pouvoir compter pour jouer le titre.
Mais attends, quand même, j'ai le titre carrément.
Ah, ils vont jouer dans le top 2.
Ah, ouais, le top 2 en France, attention.
Ah, bah attendez, Marseille était deuxième cette année.
Ça va être Paris, Lyon. Sur le jeu, moi, je suis optimiste pour Lyon, pas de souci. Mais j'ai vu le match hier. Si, après avoir vu ce match face à des fantômes, tu te dis que l'Olympique Lyonnais, ça y est parti pour concurrencer
le PSG. Non, mais je juge aussi la Champions League, Sébastien. Je juge ce que j'ai vu en Champions League et dans la continuité, je pense que ce groupe est en train de proposer quelque chose.
Le problème, c'est que le Lyon qu'on a vu face à Dijon sera plus du tout le même dans quelques jours. Donc, on peut pas tirer de conclusion. Depay, avec ce qu'il a fait, et quand il dit lui-même, je sais que des grands clubs me veulent, mais c'est terrible comme déclaration. Sous-entendu, Lyon n'est pas un grand club. Mais qui êtes-vous, monsieur Depay, pour dire ça?
Alors, justement, deuxième tir au but. Vous êtes prêts, messieurs? Oui. Depay est-il surdimensionné pour Lyon?
Non. Mais non, mais c'est un petit joueur, petit homme. Parce que quand on dit comme ça, des grands clubs me veulent, mais va-t'en, monsieur Depay. Lui, on le remet en selle après une longue blessure. L'on lui accorde sa confiance. Et il dit ça à la fin d'un match. Je trouve ça d'un mépris, d'une arrogance absolue. Ça ne me plaît pas du tout. Ça ne m'étonnerait pas qu'il rejoigne Koeman à Barcelone. Que parce qu'entre arrogants, ils vont bien s'entendre.
Non, mais attendez. Non, mais je ne peux pas laisser passer.
Je peux pas laisser passer.
Je sais que la franchise, ça gêne Gilles parce qu'il préfère les mensonges comme ça. Des joueurs de football.
Non, on peut pas laisser passer.
Il y avait l'habitude au Paris Saint-Germain à la fin des années 90, mais là, il y a quelqu'un qui dit enfin un truc à peu près honnête et ça le choque. Mais je comprends, Gilles.
Mais Gilles, attendez, vous connaissez quand même le vestiaire.
Oui.
Il a été blessé de paille.
Oui.
Il a été blessé. Il a fait les efforts pour revenir. Il faut juste respecter ça. Et il rejoue alors qu'il est surcoté pour un énorme. Comme les joueurs du Paris Saint-Germain, c'est leur métier de jouer au football aussi. Mais je dis que vous êtes cruel. Dire que je pense que qu'il est surcoté pour jouer dans un grand club, oui, mais dire pour qui il se prend, moi je pense qu'il a été capitaine qui est en train de montrer une attitude positive de
mais des grands clubs me veulent, bah part dans des grands clubs alors.
Mais alors, et c'est quoi le problème?
Non, mais surdimensionné, c'est méchant pour Lyon, mais c'est vrai qu'on voit bien que c'est un joueur de par sa personnalité et son talent sur le terrain qui peut largement.
Il a été moyen en demi-finale, il a montré ses limites en demi-finale.
Il a une blessure de 6 mois.
C'est un bon joueur pour Lyon qui peut tirer un groupe.
Honnête, c'est un garçon qui a pris de l'épaisseur depuis son retour, enfin son arrivée dans le championnat.
Tu veux dire qu'on n'est pas honnête, c'est ça?
et qu'il a aussi pris une dimension différente du fait de ses performances en
c'est
sélection.
C'est pas un phénomène, hein.
Avec c'est surtout
un bon
en sélection.
C'est oui. un bon joueur.
C'est surtout en sélection. Parce qu'en sélection, bah
avec
c'est pas
Lyon,
le bon
il a
joueur.
Quand même été assez troisième tir au but.
Il a été intéressant, notamment dans l'implication mentale auprès de ses coéquipiers. Franchement, depuis qu'il a été nommé capitaine, mais sur le terrain, le joueur que je vois avec les Pays-Bas est incomparable avec celui de l'Olympique Lyonnais. Franchement, avec les Pays-Bas, il est vraiment très fort. Avec l'Olympique Lyonnais,
il est moyen.
Troisième tir au but, messieurs. Le match Suède-France et le match France-Croatie. Arrive et là bizarrement les cinq changements disparaissent contrairement aux autres compétitions. On marche sur la tête.
Oui, oui, on marche sur la tête.
On peut faire vite.
Déjà on marche sur la tête avec les, pour moi avec les cinq changements. C'est-à-dire que ça pour moi ça dénature complètement le football. J'entends que les joueurs ont pu être fragilisés, que la période est incertaine, mais pour moi c'est une hérésie. Donc il faut abandonner ces cinq changements et surtout il faut une uniformisation du foot. Mais ça, Christian, là on est victime de ceux qui avaient accepté la VAR, le foot à deux vitesses. Maintenant c'est le foot à deux règlements, à deux vitesses, à des compétitions différentes. Il n'y a plus de football. On est en train de tuer le football.
Vous me tendez la perche. Quatrième tir au but. Pas de VAR en Ligue des Champions féminine, sauf lors de la finale, que vous pourrez d'ailleurs suivre et sur RTL, mais aussi sur W9 dimanche soir, entre Lyon et Wolfsburg. Pas de VAR donc pour les footballeuses. Ça vous est égal ?
Non, mais ça n'est pas du tout égal. Je pense que l'UEFA avait une magnifique occasion là, de s'éviter déjà une polémique, parce qu'on savait très bien que ça allait ressortir. Ce n'est pas la première fois. Ça arrive à chaque fois qu'il y a des faits de jeu. Les filles, très justement, viennent dire sur ces matchs-là, ça serait quand même bien qu'on ait un minimum d'outils technologiques pour pouvoir bénéficier des mêmes décisions que les garçons. Ça coûte quelques dizaines de milliers d'euros. Je pense que l'UEFA, parce que j'entends dire, évidemment, les filles ne rapportent pas la même chose que les garçons. Mais sur ces décisions-là, où l'UEFA. Évidemment que c'est un fait. Mais pour moi, on est dans le symbolique. Et je pense que l'UEFA a les moyens, qui brasse quand même des dizaines et des centaines de millions d'euros par an, d'accorder aux filles ces outils-là.
En promotion de ligue aussi, hein, ils sont pas contents. En promotion de ligue, ils sont pas contents non plus qu'il n'y ait pas de VAR.
Mais d'accord, ouais. Mais là on parle de la Ligue des Champions.
Non, mais ce qui est pas cohérent,
vous êtes un mépris pour le football féminin.
Vas-y, allez.
C'est fou ça. Dans d'autres sports comme le tennis, il y a maintenant l'égalité de ce qu'on appelle les prize money. Ça a monté considérablement. Tant que vous aurez cette attitude condescendante vis-à-vis du football féminin, nos pauvres joueuses seront méprisées.
D'ailleurs, mais moi j'ai regardé les demi-finales. Vous avez regardé, Gilles ?
Les demi-finales ? Non, j'ai pas regardé.
Donc moi, le mépris pour le football féminin. Je l'exprime pas tant que ça parce que je regarde au moins les matchs et comme je regarde les matchs, je me permets aussi de les juger.
Il se trouve
que par exemple la demi-finale franco-française entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais était d'un niveau affligeant.
Mais il faut les aider, voilà.
Messieurs, ne regardez pas plutôt que de dire
c'est
ça.
Vraiment, messieurs, on craque, c'est que la vitesse du jeu permet de se passer de la VAR.
Messieurs,
ça c'est honteux.
Ça c'est vraiment.
Carton jaune.
L'avenir du football, c'est la femme. Vous pouvez pas nier ça.
Finale demain, W9, Lyon-Wolfsburg. Écoutez-moi bien, finale demain soir sur W9, Lyon-Wolfsburg. Bravo, Olas.
Oui, bravo, Olas.
Visionnaire. L'homme qui aimait les femmes.
Non, mais attendez, si on peut en placer une.
Mais c'est le but du jeu.
Tout à l'heure, déjà, je voulais sur la VAR, je voudrais juste dire, si on le fait, on le fait pour tout le monde, on le fait pas. Voilà, il y a pas de, on fait tout, on fait rien.
Alors deuxième chose, on est déjà en cause le patron.
Non, mais attendez. On peut pas intervenir. Et puis il y a des coups de sifflet. Puis je vois que Gilles il y a le sifflet. Donc
ça va trop vite pour toi.
On va laisser le sifflet à Gilles tout le truc et puis on se casse. Quoi, comme ça, ça va être plus facile.
Allez, rapidement parce que j'ai une dernière question.
Vas-y.
Olas, le Belge est susceptible.
Attendez, il y a un moment donné,
Allez, vas-y.
Rapidement.
Mais il a la possession.
On comprend pourquoi on les a tapés en Coupe du Monde. Hein.
Bon, t'as perdu le ballon.
Ça, c'est petit.
Tu as perdu le ballon.
De toute façon, après la connerie, il va dire.
C'est moche.
Dernier tir au but, messieurs. Et là, un peu de sérieux. Les footballeurs de Ligue 1 doivent-ils mettre un genou à terre et s'engager contre les violences racistes ?
Doivent-ils ? Non, il n'y a pas d'obligation. Je veux dire, s'ils le sentent, c'est très personnel comme conviction. Donc, doivent-ils ? Non.
David Aiello, c'était ?
C'est vrai qu'il y a très peu en France de suivi de cette affaire. Ça manque, je trouve. Il y a très peu d'engagement des sportifs, mais quelques basketteurs. Mais on n'est pas réputé pour avoir des sportifs qui s'engagent considérablement.
Et puis on ne cesse de parler de ce qu'il se passe aux États-Unis et tant mieux, ce qui s'est passé, une honte absolue, mais il s'est passé aussi des choses en France.
Et j'aimerais que s'ils ont envie de s'impliquer, qu'ils s'impliquent aussi quand il se passe des choses en France.
Philippe Sanfourche.
Il faut une liberté totale sur ce dossier-là. C'est-à-dire que les sportifs, comme toute personnalité publique qui souhaite s'engager, puissent le faire. Il faut aussi que ceux qui ne souhaitent pas s'engager publiquement, mais qui vont peut-être le faire en privé ou pas, on n'en sait rien, ne soient pas non plus stigmatisés. Là, je pense à ce qui s'est passé pour Charles Leclerc en Formule 1, où en gros, il lui a été reproché de ne pas faire ce que Lewis Hamilton avait fait. Ça, il ne faut pas qu'on tombe là-dedans.
Stéphane Pouet.
Je viens de voir ce que c'est la ségrégation avec Gilles et moi, l'anti-belge. Mais juste, en boutade, le racisme, est forcément, il a toujours existé. Et moi, je déteste la récupération. Alors, je pense qu'il faut en parler de ce qui se passe aux États-Unis. C'est grave. Il faut parler de ce qui se passe chez nous. C'est grave. Et je pense que tous ici autour de la table, on défend ce fléau, enfin on est contre cela, mais je ne suis pas convaincu qu'en faisant cette espèce de geste tous ensemble, ça va faire bouger des choses. Je serais plutôt de dire, soyons là dans les moments concrets et réagissons quand il y a des faits de racisme graves, où là souvent, les sportifs de haut niveau, on ne les entend pas.
Deuxième journée de Ligue 2, c'est la mi-temps, Serge Puyot.
Exactement, ici au Stade des Alpes de Grenoble. Grenoble mène 4 buts à 2 face à Toulouse. Début grenoblois de Nestor, Anani, Benet et Semedo contre 2 buts de Bayo pour Toulouse. Sochaux mène devant 3-1-0, un but de Lopi. Dunkerque mène devant Clermont 1-0, un but de Ketkeo Fonfon. Chambly mène à Niort 1-0, un but de Jacques. Le Havre mène devant Amiens 1-0, un but de Monzango. Et puis pour tous les autres matchs, Pau-Rodez, Châteauroux, Auxerre, Paris FC Valenciennes 0-0. Cet après-midi, Caen avait battu Ajaccio 1-0 et Nancy et Guingamp avaient fait match nul, 2 buts partout.
La suite bien sûr, après les informations de 20h dans RTL Foot. Fin de... On refait le match. Merci beaucoup messieurs. Merci Philippe Sanfourche, Sébastien Tarrago, Stéphane Poels, Gilles Verdez et David Aiello. À une prochaine fois pour les débats, les polémiques et toujours dans la bonne humeur et la bienveillance.